Le midi. On en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
On a toujours bien du fun hors d'onde avant de lancer cette émission. On en jase. Midi, une minute précisément. Ben oui, on va jaser de cette défaite du Canadien hier, 3-2. C'est maintenant 2-2 dans la série contre les Sabres de Buffalo. Prochain match jeudi à Buffalo, un centre Vidéotron ici à Québec qui sera rempli de partisans du Canadien pour encourager le CH pour une bonne cause. 12$. Il reste encore quelques billets disponibles. À la météo, c'est 14 degrés aujourd'hui avec 30% de possibilité d'averse. 13 degrés demain, quelques averses et oh, quel beau week-end. 21 vendredi, 21 samedi, 19 dimanche, 22 lundi. C'est le long week-end, profitez-en. 418-971-1021 d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire pendant le long week-end? Moi, j'ai décidé que c'était une fin de semaine à la maison à taponner ces petites affaires tranquilles dehors, mais à un moment donné, quand ça me tente, là, de prendre un petit drink sur mon petit divan de patio dehors puis profiter du soleil. Ça va être ça, mon long week-end.
Faut être au soleil, par exemple, parce qu'il
oui.
fait pas chaud encore. Hein?
Ah ouais, mais là, hey, 21, 22.
Ouais, mais là, je regarde beaucoup la météo aussi parce que nous, on a loin un chalet en fin de semaine avec des amis.
Ah, c'est cool, ça.
Puis, tu sais, j'aime bien mes amis, mais c'est le fun quand il fait beau, là, parce qu'à un moment donné, être
ouais,
dans le chalet.
Donné, là, ouais, on va arrêter de parler aux amis, bon, on va aller tout seul. Hein,
oui,
quand
puis, tu sais, nous autres, à la gang, on a comme 75 enfants.
J'allais dire, y a-tu des
ouais,
enfants
oui,
là-dedans? Parce que c'est là où c'est plus complexe.
Dans un chalet.
Ouais.
OK.
Faut qu'il fasse beau, tu comprends?
Oui. Grosse question,
allez,
par exemple. Est-ce que vous allez parler de séparation du Québec?
Ben, c'est sûr qu'on parle beaucoup de politique.
Oh, parfait.
C'est des amis de politique.
OK. Fait que là, quand partie. Tu rentres dans le chalet, tu checks. Ouais, hey, il y a un plafond flottant.
Exact.
Non. Amène l'échelle.
Non, mais on parle tout en code, nous autres, là.
OK, bah, c'est parfait.
Séparation, c'est on dit divorce. Québec, c'est la. C'est,
fait que
c'est
les
madame,
enfants paniquent.
Canada, c'est monsieur.
Hey, ouais, mais attends une minute, là.
Les enfants sont de là pleins d'anxiété. Nos parents vont séparer.
Oui, exact.
C'est ça. Attends une minute.
C'est pour ça qu'il faut que je vous dise.
Faites attention, changez le lexique parce que j'ai en main le lexique de la GRC, ils connaissent vos codes.
Ah, bon, OK. Okay. Bon, on va aller parler sur le lac dans nos pédalos. Tu penses qu'ils ont quand même pas
ben
wiré le pédalo?
Là, on sait jamais. Tu parles de séparation.
Bon, on n'en parlera plus.
Ben, on va en parler tantôt, par exemple.
OK.
De cet espionnage.
Je pense qu'on est écoutés. Par les auditeurs.
Oui, exactement. Oui, il y a des micros ici.
En nombre, c'est quand même difficile de ne pas se douter qu'il y a de l'écoute qui est faite.
418-971-1021, vous comprendrez qu'on va parler d'espionnage, évidemment. Des nouveaux sondages, on va en parler dans le caucus également. Des sondages quand même assez favorables au PQ, puis une belle remontée de la CAQ. Pour moi, c'est sans surprise. Je trouve vraiment que Christine Fréchette fait un bon travail. Depuis son arrivée comme première ministre. Et on va se faire un beau bloc d'actualité politique municipale tout à l'heure avec Alicia Despins dans la deuxième heure de l'émission. Super beau projet de logis expert, 15 étages, immeuble de la Barberie à l'heure actuelle, ouais. Près du palais de justice. Logis expert, c'est pas des gens qui construisent des condos haut de gamme, c'est pas des gens qui se lancent dans des projets de centaines de millions de dollars. Ben non. C'est du monde qui font des logements abordables pour la famille moyenne. Hey, c'est-tu pas beau, ça, dans Saint-Roch? On va parler avec Alicia Despins. On a eu d'ailleurs Jean-François Beaudoin, cofondateur de Logis Expert, en entrevue dans Marceau le matin. Ce matin, c'est disponible sur blvd.fm.
Faisons un petit clin d'œil au fait qu'ils ont fait des consultations avec les citoyens pour comprendre les demandes,
oui.
Les besoins. Ça, je pense qu'il faut le mettre en lumière.
Vraiment, des services à vélo qui vont être direct à la porte de cet immeuble-là. Ah non, franchement, c'est un projet... c'est vraiment un projet emballant pour Saint-Roch. Donc, on va se parler, on va se transporter avec Alicia Despins dans 10-12 ans. Qu'est-ce que va être Saint-Roch? Je suis pris d'un élan de positif.
C'est bon, ça.
J'aime
Bravo.
Ça.
Bravo.
J'aime ça. J'aime mon centre-ville que je vois dans ma tête là, avec plusieurs projets. On en parle avec Alicia Despins. Mais avant tout ça, Pascal CV, à midi 5 minutes, qu'est-ce qu'on doit surveiller dans l'actualité?
On reviendra avec les services parce que ça bouge dans la ville autant sur où on peut passer ou on ne peut pas passer la consommation d'eau ou encore les rues piétonnes. Mais pour l'instant, on parle de Al Boivin. Il serait rendu en Europe le criminel le plus recherché au Canada. Vous le connaissez, Al Boivin. Vous avez vu son visage, c'est sûr, un peu partout. Il se trouverait en Europe. C'est ce qu'a appris le bureau d'enquête du Journal de Québec. On précise qui serait notamment caché en Espagne pour un certain temps après avoir quitté le pays il y a déjà au moins plusieurs mois. T'sais, c'est assez nébuleux, ben oui. Le comment, le pourquoi. Ça vous rappelle-tu quelqu'un d'autre? Le journal n'est pas en mesure de confirmer si le Saguenay est toujours en compagnie de sa conjointe. Elle s'appelle Yolis Lemieux Bellavance. Elle est également recherchée. Il y a un informateur qui explique que la cavale est possible parce que Boivin a de l'argent puis qu'il paie très cher. Hein. Fait que, il y a des gens qui ont leurs chiffres et lui est capable de leur donner. Il dirigerait toujours le North Savage Gang, qui est composé entre autres d'anciens membres du Blood Family Mafia. Il y a le programme Bolo qui est là-dessus. On offre 100 000 $ je vous rappelle, jusqu'au 9 juin prochain pour toute information qui permettrait de le localiser. Alors, leader extrêmement violent qui chapeaute encore une organisation très violente qui aurait réussi à quitter le pays. Un éducateur en service de garde de l'école Anne Hébert fait face à des accusations d'agression sexuelle et de contact sexuel impliquant une élève de 11 ans. Pour moi, c'est essentiel qu'on en parle à multiples reprises.
C'est stressant quand t'es parent d'un enfant qui va à cette école-là. Oh my God!
Oui, puis il y en a qui ont des besoins particuliers. Là. Oui. On s'entend à l'école Anne Hébert, Radio-Canada, qui rapporte que Kerfala Bagoura a comparu pour la première fois le 9 avril. Il a été remis en liberté et on attend la suite des procédures judiciaires. Les gestes allégués seraient survenus le 27 mars dernier, donc cette année, là, ça fait pas longtemps. Quelques jours plus tard, il y a la direction de l'école qui a transmis une lettre aux parents. On a informé qu'il y avait un membre du personnel qui avait été suspendu en raison d'une enquête policière en cours. L'accusé doit revenir devant le tribunal le 16 juillet prochain.
Je prends la peine de souligner l'excellent travail de la direction d'école. Dès qu'ils ont été mis au courant, suspension immédiate, enquête policière, on a avisé les parents. Chapeau, ils ont vraiment été très proactifs dans le dossier.
Puis on confirme que le Centre de services scolaires de la capitale le fait une vérification des antécédents judiciaires avant toute embauche.
Oui, exactement. Ouais. Malheureusement, ça peut arriver qu'une personne n'ait pas d'antécédents judiciaires.
Mais avant d'en avoir. Hein?
Les réparables, exactement. Donc, c'est en plein ça.
Il y a un sondage fédéral dans la presse qui fait jaser aujourd'hui parce qu'on projette un volet fédéral pour la firme Synopsis, je m'excuse. Je sais pas ce qui se passait. Sans surprise, il y a le premier ministre Mark Carney qui reste très dominant au Québec. Pas moins de 63% des Québécois sont satisfaits du travail du premier ministre. Puis quand on répartit les indécis, il y a un Québécois sur deux qui voterait Parti libéral du Canada. Le Bloc québécois, on est à 27%. Le Parti conservateur a de la misère à accrocher les Québécois avec 16%. Le NPD est très faible, on est à 5% juste devant le Parti vert, si vous l'aviez oublié, à 3%. On note que les libéraux mènent chez les francophones, les non-francophones, les hommes, les femmes et dans tous les groupes d'âge. Ils sont absolument dominants.
Le caucus. Les vrais enjeux expliquant le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Plusieurs moyens d'écouter le caucus à la radio sur blvd.fm via notre web radio ou avec notre application BLVD 102.1 sur App Store et Google Play Store. Téléchargez-les, c'est gratuit. Alors, on va commencer justement avec le fédéral, Antonine, vu que Pascal nous a mis en bouche ce sondage. Mark Carney marche sur les eaux au Québec. Je suis pas surpris parce qu'on va parler du sondage, justement, Synopsis, qui met la souveraineté du Québec à 31% seulement dans les intentions. Puis, écoute, Pierre Poilievre, au Québec, on veut plus rien savoir.
Ça lève pas, Pierre Poilievre. Même, on peut se surprendre un peu plus sur le Bloc québécois, quand même.
Mm-hmm.
À quel point c'est pas vu en ce moment comme une option si intéressante pour les électeurs du Québec. Ça a souvent été une valeur refuge, hein, entre un parti libéral plus centralisateur, qui, des fois, travaillait contre les intérêts du Québec, un parti conservateur que pas mal de Québécois regardent puis se disent « peut-être », puis hop, là, et là, t'entends des propositions là, qui nous arrivent de l'Ouest canadien, puis tu te dis « oh, non, on n'embarque pas dans ce train-là ». Le Bloc apparaissait un peu comme un compromis, une espèce de valeur refuge, sachant qu'il ne gagnerait pas le gouvernement, évidemment. Mais on dirait que c'est moins présent en ce moment.
Est-ce que ce sont les partis ou les chefs de parti, selon toi? C'est, la question là, me brûle depuis ce matin.
Question.
J'avais tellement hâte de te voir. Là.
Bien, en fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que peu importe le contexte, le chef d'un parti a un impact incroyable sur l'appui de la population. C'est sûr qu'il y a une partie des gens qui sont décidés, puis tu sais qu'eux autres, ils ont leur carte de membre, puis ils changeront jamais. Mais dans l'électorat, qui peut changer d'une élection à l'autre, puis nos campagnes électorales tournent beaucoup autour des chefs. Donc oui, c'est beaucoup les chefs. Puis la preuve, c'est que, je veux dire, les gens étaient plus capables du Parti libéral du Canada, sous Justin Trudeau.
Mm-hmm.
On change de chef. Oui, il a changé certaines choses aussi, il a recentré le parti. Mais là, comme tu dis, Jeff, Mark Carney, il marche sur l'eau. T'sais, qui l'eût cru, évidemment, il y a un an et demi à peine dans la politique canadienne. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter, notre M. Carney. T'sais, puis même les critiques qu'on entend sur lui des fois, t'sais, on parlait d'arrogance un peu quand il y a été question des comités qui ont été fermés là, à Ottawa après l'accession à la majorité. Pour l'instant, là.
Oh, ça lui coule comme de l'eau sur le dos d'un canard.
Tu sais, c'est quoi la pogne? Mais à un moment donné, il y a des affaires qui finissent par coller, ouais, mais c'est pas tout de suite.
Je dépense des milliers de dollars en nourriture dans les avions.
Pas de problème.
Who cares? Marc voyage pour nous. C'est quasiment ça que le monde se dit. Mais en même temps, tu sais, ceux qui le critiquent disent il aurait dû, il nous a promis de régler avec les États-Unis, il n'a pas encore réglé. Mais là, quand je regarde Donald Trump là, qui joue à Battle Chip sur Truth Social avec l'Iran, tu sais, je veux dire, il n'y a personne au monde à l'heure actuelle qui va y reprocher de ne pas avoir réglé avec les États-Unis. C'est pas réglable.
Sa promesse a évolué, mais je pense que les attentes des gens ont évolué au même rythme que les messages clés de M. Carney. Puis c'est sûr qu'il en a profité là, de l'anxiété du monde il y a un an pour se faire élire. Là. Tu sais, je veux dire, il y a de la politique à travers ça, c'est évident. Mais tu sais, on n'entend pas beaucoup ça. On l'entend des adversaires politiques. Il nous a promis, il n'a rien réglé encore. Ouais. Tout le monde sait que, je veux dire, c'est tellement difficile de comprendre quelle stratégie on doit prendre avec M. Trump. Et moi, j'arrive systématiquement à la conclusion que la meilleure stratégie, c'est de mettre des délais, d'attendre, de gagner du temps. En attendant, on a quand même un accord de libre-échange qui protège certains
produits. Exactement.
Et d'espérer que l'automne prochain, puis là, ça regarde très mal pour lui, pour ses élections de mi-mandat, espérer qu'il perde le contrôle des chambres et qu'il perde un peu de puissance de l'autre côté de la frontière. Donc, j'ai l'impression que même les gens qui ne sont pas libéraux se disent, écoute, qui ferait mieux?
Oui, mais de toute façon, moi, je pense que c'est la stratégie la plus intelligente d'attendre les élections de mi-mandat parce que tu ne veux pas redonner du pouvoir à Donald Trump dans le but qu'au mi-mandat, il sauve soit le Sénat ou
la Chambre des représentants.
Ouais, le Congrès américain, exactement. Fait que tu dis, gars, mon homme, continue. Va-t'en vers des défaites cuisantes. Puis après, nous, on va te servir. Nous, on va arriver puis on va dire, hey, regarde, tu veux regagner. Faut que les républicains regagnent la faveur dans l'opinion publique. Hein?
Tu veux un
on
gain?
On va faire une baie. Exactement.
En échange d'un autre. Mais le problème avec M. Trump, c'est qu'il ne pense pas gagnant-gagnant. Donc, c'est très difficile d'aller faire des gains. Cela dit, évidemment, quand lui se retrouve affaibli, ben, ça augmente un peu, un tant soit peu, notre levier de négociation. Puis, il faut le rappeler, là, y a certains pouvoirs qui sont réservés au Congrès américain. Mm-hmm. Donc, si le Congrès n'est plus républicain, ça change quelque chose.
Ben oui, ça change quelque chose.
Puis même la Cour suprême, qui est à majorité républicaine maintenant...
A voté contre lui à plusieurs reprises.
Et voilà. Donc, quand même, un peu d'espoir, les institutions font leur travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Mike Carney? Ça veut dire qu'il n'y a pas de presse comme tel.
Non.
Puis c'est sûr qu'il se fait critiquer. T'sais, parce que la politique intérieure finit toujours par avoir le dessus sur la politique extérieure dans la vie. Et il se fait critiquer, les oppositions vont l'attaquer. Je trouve que les oppositions sont quand même constructives. Puis c'est pas toujours facile pour
en
M. Poilievre d'être constructif. Mais tu sais, quand il a fait sa mission aux États-Unis, il n'a pas foutu le bordel pour foutre le bordel du tout. Il a été
notamment
très correct.
Notamment au podcast de Joe Rogan.
Absolument. Il a défendu les institutions canadiennes. Il a refusé de critiquer ouvertement et de se mêler des affaires étrangères canadiennes. Donc, quand même... Puis même les médias, je trouve, donnent une chance aux coureurs, là, dans le sens qu'on aurait pu... Tu sais, les médias, des fois, on peut être impatient de dire pourquoi il n'a pas réagi, il faut qu'il réponde à ça, il faut qu'il dise ci, il faut qu'il dise ça. Puis moi, je suis pour la transparence. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en ce qui concerne les États-Unis, je ne veux pas un premier ministre qui réagit au quart de tour puis qui a des lignes assassines. Non, on ne veut pas ça.
Hey, on est bien. Hein? Souviens-toi, en janvier 2025, Donald Trump ouvrait la bouche puis le Canada au complet bougeait vers Washington.
Oui.
Là, Donald Trump ouvre la bouche puis on est... Il a-tu encore parlé, lui?
Ben, c'est tellement la chose à faire. Mais tu sais, il ne faut pas banaliser... Mais il faut aussi qu'on continue de vivre nos vies.
Ben oui.
Puis il faut qu'on gère notre pays, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, on ne peut pas parler de Donald Trump 24 heures sur 24. Là.
Non, vraiment pas. Donc, beau travail de Mark Carney. Je vous fais entendre Christine Fréchette lorsqu'elle avait nommé son nouveau conseil des ministres.
Alors, on a deux choix. Soit on retourne dans le passé puis on recule, soit on bâtit l'avenir et on avance tous ensemble. Moi, comme première ministre, j'ai fait mon choix. Vous le savez. Malgré la tempête, j'ai choisi de faire preuve d'ambition puis de détermination.
Ben, coudonc, bon premier coup de sonde pour Christine Fréchette.
Ben oui.
On était à 13%. Synopsis nous donne 18% dans la presse ce matin. Palace nous donne 19% dans le magazine L'Actualité. Donc, ça va bien. Une remontée de la CAQ. Je suis vraiment pas surpris, Antonine. Je le dis très ouvertement, elle fait du bon travail.
Oui, ben c'est ça. Je pense qu'elle a coché toutes les cases qu'elle pouvait cocher.
Exactement.
Tu sais, on contrôle pas tout dans la vie. Elle peut pas refaire le passé. Elle peut pas faire reluire la CAQ plus qu'elle l'a fait actuellement. Mais elle a fait un sans faute. Je pense qu'on peut dire ça. Est-ce qu'il y a eu des gros problèmes à gérer, etc.? Ben peut-être pas, mais cela dit, elle s'est pas autopelure de bananiser.
Elle a quand même eu le courage de lancer DSN, le dossier santé numérique.
Tout à fait raison.
Et d'ailleurs, on va en parler avec Yann Langlais-Plante aux alentours de 12h30, qui est justement directeur aux affaires publiques. On va parler de ce lancement-là. On en est rendu où aujourd'hui, en date du 13 mai?
T'as raison, elle a pris un risque en se mettant les mains dans ce dossier-là. Donc, ça semble payant pour elle. Et c'est très important, cette remontée de la CAQ, parce que quand on regarde comté par comté, là, on a beaucoup de luttes à trois.
Mm-hmm.
Puis quand la CAQ redevient compétitive, ça mêle les cartes.
Vraiment.
Donc, ça devient très imprévisible. Puis moi, c'est ce que je veux que les gens retiennent de ces sondages-là. On sait bien qu'un sondage ne fait pas le printemps, là. Pas du tout. Mais elle a atteint son objectif parce que, un, elle a mis le doute que c'était possible que la CAQ remonte, parce que ça remontait pas, là, on s'entend, là, depuis l'automne dernier. Là.
Deuxième dans le vote francophone à 23%, c'est pas rien. Là.
C'est pas rien. D'ailleurs, les libéraux, le PLQ, c'est incroyable chez les non-francophones.
Oui, c'est 70%, mais c'est 20% chez les francophones. Fait que l'espèce de flou de Charles Milliard, là, ça coûte un gouvernement à l'heure actuelle.
Oui, le flou, mais même quand on clarifie certaines choses avec M. Milliard, on se rend compte que sur les positions des dossiers identitaires, mm-hmm. ça ne sera pas facile à vendre chez les francophones. Donc, quand ça se clarifie, c'est pas nécessairement à son avantage. Donc, pour Christine Fréchette, ça veut dire qu'elle a réussi à mettre le doute. Elle a réussi à montrer qu'il y avait un effet Fréchette. Donc, ça, c'est un gain pour elle. Et ça veut dire que dans plusieurs circonscriptions, ça peut faire la différence. Donc, là, c'était l'étape importante, le premier sondage.
Oui.
OK? Prochaine étape, c'est de commencer à annoncer des candidatures.
Mais oui.
Et là, le PQ et le PLQ sont en feu. Là. Puis même QS, hein, ça va bien QS, ils nomment leur candidat.
Bon. En effet.
La CAQ, on n'a aucun nouveau visage. Il avait même laissé planer, tu sais, avant la formation du Conseil des ministres, peut-être un ministre non élu des nouveaux. Mm-hmm. Puis ça a fait patate, cette affaire-là.
Un Guy Cormier, Olivier Primo de ce monde.
Il n'y en a même pas eu. Donc là, si tu vas sur le site de Québec 125 quand ils vont avoir fait leur mise à jour là, après les sondages, puis qu'il y a quelques circonscriptions dans lesquelles, tu sais, tout à coup, la CAQ est deuxième, là. Et ça, là, toi, t'es candidat, tu te dis, ben écoutons, puis moi, Mme Fréchette, je l'aime bien, puis je suis rendue là dans ma vie, j'ai le goût de m'impliquer en politique, je veux pas de référendum, les libéraux, je les aime pas, nanana. Qui sait, ça peut faire la différence. Puis là, si tu réussis à commencer à présenter des candidats intéressants, ça peut faire boule de neige. Donc, c'est ça la prochaine étape.
En effet. Ça veut dire que là, si t'es un stratège caquiste, tu vas sur Québec 125, tu checkes les circonscriptions que t'as pas personne à présent, parce qu'il y a des grands ténors quand même qui revenaient, exemple Simon-Jolin Barrette. Et là, tu dis, OK, c'est là, faut que j'aille frapper. Hey, ça me fait penser, ça, quand tu dis, on s'attache au chef, justement, dans le vote, mais aussi dans la candidature. T'sais, le PLQ est 10% dans la région de Québec, puis René Verrette s'est attaché au PLQ. Julie White va s'attacher. T'sais, quand tu es un chef qui a un certain charisme, puis Christine Fréchette semble résonner à l'heure actuelle dans la population et dans le monde des affaires, qui sait, il pourrait avoir des bonnes candidatures.
Il y a des gens qui ont du courage aussi dans la vie. Il y en a qui vont vouloir une circonscription gagner, des châteaux forts, ne veulent pas prendre de risques. Mais il y a quand même des gens qui aiment faire la différence. Donc, mettons, tu dis, là, moi, je me pense bonne chez nous, là, puis je me dis, moi, ma candidature va faire une différence. Il y en a du monde de même, puis c'est bien correct.
Bien, Maître Verret, j'ai senti ça en entrevue à Marceau le matin.
C'est ça. Donc, la CAQ, ça va être ça, le prochain défi. Puis c'est pas évident, là. Les gens qui veulent se lancer en politique, là, présentement, là, c'est pas mal plus intéressant, quand tu regardes Québec 125, d'aller dans certaines régions vers un autre parti.
Mm-hmm.
On s'entend. Mais ils peuvent vouloir faire la différence. Un petit mot quand même sur le PLQ qui perd des plumes là, quand on regarde le Palace et on le compare avec le Palace précédent, perd de 5 points.
Ouais, c'est beaucoup.
Là, ça va être un petit électrochoc parce qu'on se dit, ah, l'effet de nouveauté, j'arrive après Pablo Rodriguez, je suis propre. Moi, l'UPAC, je touche pas à ça. D'ailleurs, ils doivent pas être bien contents des titres qui ont apparu aujourd'hui parce qu'on apprend que Charles Milliard a parlé avec l'UPAC. on le sait bien là, que c'est pas nécessairement parce qu'il est le suspect numéro un de quelque chose. C'est juste, tu veux pas ton nom puis l'UPAC dans le même titre quand t'es au Parti libéral. T'sais.
En effet. Le Parti conservateur du Québec, il continue d'être un parti régional, c'est-à-dire ouais. Région de Québec, Chaudière-Appalaches. QS, qui est à 8 % devrait aller chercher quelques comtés quand même, notamment avec Alexandre Boulris.
Oui, effectivement, Alexandre Boulris. Puis tu sais, tantôt, on disait les candidatures, quand même, le QS a quand même des nouveaux visages à présenter. Ça va mieux qu'à la CAQ pour l'instant. Mais ça demeure difficile pour Québec solidaire. Ce qui est bien avec QS, c'est que là, ils ont réussi à mettre quelque chose à l'agenda cette semaine. On a parlé beaucoup d'eux.
Oui.
Il y a quand même un peu de parlez-en mal, parlez-en bien dans la vie en politique.
En
effet. Okay? Ils ont mis quelque chose à l'agenda avec ce débat sur l'impôt pour les plus riches au Québec. Donc, ça nous démontre qu'ils peuvent quand même avoir encore un impact politique. C'est la même chose avec les féminicides. On va en parler un petit peu tantôt, mais il y a le projet de loi Gabi Renault qui a été déposé ce matin. Les féminicides, c'est un dossier que QS a beaucoup poussé. Il faut rendre à César ce qui revient à César.
Exactement. Ça m'amène à parler du PQ qui, présentement, malgré le fait qu'on regarde autant au niveau de Synopsis que du Palace, Synopsis, c'est 30 % PQ, 30 % PLQ. Palace, 29 % PQ, 28 % PLQ. Sont en zone quand même majoritaire parce que le vote francophone à 35 % et plus leur donne cette majorité-là, notamment avec les régions.
Les régions leur donnent la porte de la majorité, peut-être un petit minoritaire. Comme je te disais, il y a beaucoup d'instabilité, premièrement, puis il y a des courses à trois qui sont imprévisibles. Fait que c'est difficile. Moi, si vous avez quelqu'un qui dit « Moi, je suis sûr que ça va être un gouvernement minoritaire », honnêtement, là, moi, je suis pas prête à faire des gageures avec de l'argent.
Le 5 octobre prochain va être intéressant, soit en passant, on va faire une soirée électorale à Boulevard, puis on veut la faire avec nos auditeurs.
Absolument. On veut faire quelque chose en personne, d'humain. Là. Pas tout le monde là, sur sa télévision et son téléphone. Non, ça va être super le fun. Mais pour le PQ, ça demeure des bonnes nouvelles. Puis même si... T'sais, Paul Saint-Pierre Plamondon était, au début, et lui aussi, il marchait un peu sur l'eau là, pendant un bon bout de temps. Il y a eu un petit peu plus le vent dans le visage depuis quelques mois. Mais ça semble pas, ça n'est pas en train de tout se détricoter. Là. Il y a des drapeaux jaunes qui se lèvent, notamment il y a des gens qui essaient de lui coller certaines étiquettes, soupeaux, laid, impulsif, qui n'écoutent pas. Là, on entend beaucoup ça. Pour l'instant, continue d'avoir des projections intéressantes au niveau des votes.
Là. Mais là, est-ce qu'il est devenu complotiste?
S'il y a une constance dans l'histoire du Parti québécois, c'est que le chef et les élus influents sont espionnés.
Hein?
Oh. Souveraineté.
Attention, c'est Mark Carney.
Il y en a qui se fâchent, là.
Ouais. Il vient de sauter en parachute, Mark. Là, il est en parachute, puis il regarde. Puis il y a le gros drapeau du Québec. Le rassemblement péquiste.
Mark Carney qui atterrit à quelques centimètres du sol.
Exactement.
Oui, c'est ça, comme Tom Cruise.
Arrêté.
Oui, et là, il a pris ses jumelles infrarouges. Regarde ce qui se passe.
Il passe à travers un corridor avec des lasers.
Oui.
Il fait des contorsions.
Mark se faufile.
C'est ça qu'il n'a pas le temps d'être du côté du fédéral tant que ça.
Et là, François-Philippe Champagne parle derrière et lui dit « Chut, arrête de parler, mon lapin énergisaire.
» Silence.
Silence.
On écoute.
On écoute, on se promène. On est le gouvernement fédéral. Et là, il y a des agents, des services secrets.
Arrêtez les indépendantistes québécois.
La GRC a mis des micros dans le plafond et ils sont dans le vieux camion de plomberie dehors là, avec leurs écouteurs.
Si vous acceptez cette mission, vous serez aidé par la GRC.
Exactement.
Cette mission, ce message s'auto-détruira dans 30 secondes.
Patriote canadien.
Opération. Opération Carney.
OK.
Opération pleine d'Abraham.
Ouais, t'sais. Opération pleine d'Abraham, j'adore ça. Fallait pas qu'ils le disent.
Bon, écoute.
T'sais, on va se dire les vraies choses. Là.
C'est le moment.
OK, c'est arrivé dans les années 70. C'était dans un autre contexte complètement différent.
Ça a
été prouvé bombes sautaient.
Que c'est arrivé dans les années 70.
C'est ça, les bombes sautaient, les FLQ venaient de tuer un ministre. Pierre
il y avait un contexte.
Il y avait quand même un contexte à ce que la police se mêle de ça. Mais là.
Ouf. Écoute, Jeff, c'est le moment du caucus sur le fond et sur la forme. Ouais, tu connais comment j'aime ça, par le fond et la forme. Sur le fond, PSPP a raison. Je te dis pas qu'il est espionné, mais les pratiques telles qu'on en a déjà vu dans l'histoire, donc surveillance, ficher des gens, faire de l'écoute, Moi, je n'ai pas tombé en bas de ma chaise là, hier quand PSPP a dit ça. Là. C'est fort possible et c'est probable, en fait. L'histoire nous l'a démontré. Il y a eu des pratiques douteuses du côté d'Ottawa envers le mouvement souverainiste depuis toujours. Effectivement, les années 70, c'était comme un moment bien, bien particulier où, notamment, la GRC, là, ça avait été prouvé qu'ils ont... sont allés chercher la liste des membres du Parti québécois de manière complètement illégale. Genre, ils se sont introduits dans les bureaux du Parti québécois là, avec la toune là, que tu mettais tantôt. Ça, c'est vrai, c'est absolument vrai. Maintenant, je veux juste dire, premièrement, que la GRC n'écoute pas juste les souverainistes. T'sais, vous savez un peu comment ça marche, là, l'intelligence, puis les services secrets, puis les services policiers. Il y a de la surveillance qui se fait sur les médias sociaux. Ben il y a oui. certaines choses qui vont attirer l'attention.
Terrorisme, ingérence étrangère, etc. Là.
Pédophilie, etc. Oui. Là, c'est, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Maintenant, ben, je ne veux pas comparer le mouvement souverainiste à du terrorisme. Mais c'est considéré comme d'une instabilité politique, évidemment, par un État fédéral. Donc, il va y avoir une certaine surveillance, là, c'est quasiment sûr. Bon, ça, c'était le fond.
Le fond. La
Maintenant,
forme.
Maintenant, dans la forme.
Ouais.
Pour caisser que le chef du PQ lance ça un bon mardi matin ou après-midi, là, dans le hot room, donc la petite salle de conférence de presse improvisée de l'Assemblée nationale, alors que c'était pas ça le sujet du jour, pas en tout.
C'était un échappé majeur, comme je vais vous le dire dans les deux langues officielles, puis s'il faut en espagnol. Non, non, mais c'est vrai, là, oui. On se le cachera pas.
Oui, mais il y a eu une question. En fait, c'est, tout ça est dans la foulée pour les gens qui ont moins suivi du décès de Claude Morin, qui était l'ancien ministre péquiste et qui avait été un informateur envers la GRC.
Dans le temps, on se cachait dans un motel, puis là, on faisait le tour, un petit motel crasseux, miteux.
Là, on embarquait dans une vieille voiture brune, puis là, on se donnait
Puis là, tout le monde fumait dans le char.
Tout sentait la cigarette, puis là, on se donnait des informations. C'est dans ce contexte-là que Paul Saint-Pierre Plamondon a commencé à parler de ça. Il y a eu une question d'un journaliste dans la mêlée de presse. C'est juste que c'est tellement gros, puis c'est tellement croustillant que c'est bien sûr que si tu parles de ça, tout le reste prend le dallo. OK? Ben, n'importe qui fait de la communication, c'est ça. Là.
Si tu parles de ça, tout le monde se met à faire jouer ça. Hein, c'est beau, hein?
Ben, oui.
Mais c'est ça. Tu sais, je vais reprendre François Lambert, ce qu'il a dit à QS après leur sortie. Ta gueule! Ben, tu sais, Claude Villeneuve.
Patrick Huard, femme, ta gueule.
Ouais, c'est ça. Mais, Claude Villeneuve, qui est rendu le directeur de communication, ça y a pas tenté de dire à PSPP, ta gueule.
Mais je suis pas sûre que Claude Villeneuve était au courant avant que ça arrive. Tu comprends?
Il était en fonction à ce moment-là.
Oui, mais il était en fonction, Claude Villeneuve.
Oui, c'est juste que ça a sorti de nulle part.
Non, mais en voulant dire, à un moment donné, ça a dû être discuté depuis longtemps pour sortir comme ça aujourd'hui.
Ben,
c'est
peut-être.
C'est sur ça que tu hésites?
Moi, je pense que c'était pas prévu. Qu'il s'est fait poser la question. Que PSPP nous a habitués à être quelqu'un d'assez transparent. Puis d'ailleurs, c'est une qualité. Il est assez cohérent, assez transparent. Oui. On n'a pas l'impression là, qu'il essaye de patiner là, pour cacher des affaires. Il a répondu directement, mais ça a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que c'est bizarre. Si on veut amener ce sujet-là dans l'espace public, puis là, tu sais, moi, j'aime ça, les communications politiques, j'aurais plein d'idées de comment on pourrait l'amener. Puis moi, je considère que plus les gens connaissent leur histoire, plus ils sont souverainistes.
Bien, une chose est sûre, c'est que les auditeurs de Boulevard 101 connaissent leur histoire parce qu'ils continuent à réagir au 418-971.
Ouais, le monde dit
quoi? Depuis ce matin, les gens disent, écoute, c'est vrai.
Bien, c'est ça.
C'est vrai que ça fonctionne comme ça. C'est juste qu'il y aurait du style.
Bien, moi, je dis pas tais-toi à jamais. C'est juste, mais on va le faire comme il faut.
Tais-toi aujourd'hui.
Mais en plus, il y a des documentaires qui sortent. Il y en a un sur le référendum de 1995. Mm-hmm. Puis il y a des gens qui apprennent qu'il y a toutes sortes de tractations en arrière de ça là, quand il y a un référendum.
Puis il y a le Québec, mais il y a toute l'ingérence étrangère.
Il y a l'ingérence étrangère.
On a jasé en masse. C'est quel bon moment pour en parler d'habitude?
Bien, en fait, c'est de faire une bonne stratégie pour placer ça dans l'espace public, mais il faut avoir un objectif. Et là, c'est là que je décroche. Il n'y en a pas d'objectif.
Non, c'est ça.
Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui regardent le PQ qui est promis dans les sondages. Il y a une certaine anxiété par rapport à la tenue d'un référendum. Et ceux qui ont connu le référendum de 1980-95 savent que c'est un peu un mélodrame, le référendum. Okay? Mm-hmm. Ça brasse, ça met de l'instabilité, il y a des chicanes dans les familles, etc. Donc, quand j'ai le chef du PQ qui me dit « Ah oui, puis by the way, on est espionné par Ottawa, puis il faut qu'on mette nos téléphones dans des boîtes puis qu'on se parle sur Signal », moi, je trouve que ça ajoute du drama.
Oui.
Donc, je trouve que ça sert aucun objectif. Peut-être que ça fait plaisir à ta gang qui était déjà convaincue, mais le monde qui se disait « Ah, oh, c'est-tu un référendum? Moi, j'aime bien le PQ, puis j'y pense. » Puis là, t'entends qu'il y a de l'espionnage, puis c'est quasiment la guerre entre Ottawa et Québec. tu dis, je suis pas sûr, ça me tente. Non. Donc, c'est un peu ça, moi, mon point.
Oui, bien, c'est un bon point, surtout ce matin, quand on regarde dans les sondages, 31% pour la souveraineté, puis Mark Carney qui marche sur les eaux. Tu n'as sûrement pas choisi le bon moment pour sortir ta phrase d'espionnage.
Bien, moi, c'est... Ouais, non, c'est pas le bon moment. J'essayais de rajouter quelque chose, mais tu as 100% raison.
Je veux juste, avant qu'on parle avec Yann Langlais-Plante, qui est directeur notamment aux affaires publiques pour Santé Québec, je veux juste qu'on prenne deux minutes, Antonine, parce que pour moi, c'est une très grande page d'histoire qui se tourne au Québec aujourd'hui. Le projet de loi Gabi-Renault qui va permettre aux femmes d'aller voir le passé de leur nouveau conjoint, de voir si ces gens-là ont été accusés, reconnus coupables de violences conjugales. Ça va sauver un paquet de femmes. Chapeau à la société québécoise de prendre ça en main. Puis il faut maintenant que tous les partis travaillent ensemble pour que ça soit réglé le plus rapidement possible. 10 féminicides depuis le début de l'année, ça n'a aucun sens. Faut régler ça. Et franchement, moi, je trouve que c'est une belle page de bienveillance de notre société aujourd'hui.
Il y a des belles choses qui se passent à l'Assemblée nationale. Il faut le souligner aussi. On espère que ça va aller vite, vite, vite.
Oui, exactement. Donc, bravo. Bravo à Yann Lafrenière. Bravo à Martine Biron. Bravo à Simon-Jolin Barret qui ont déposé ce projet de loi-là. Félicitations à Marc Tanguay qui s'est levé en chambre immédiatement après pour dire on va collaborer, c'est sûr, à 100%. Tu disais tout à l'heure, bravo à QS aussi qui sont ceux qui ont travaillé beaucoup pour amener le tout à l'avant-plan, Ruba Gazal. C'est signe que quand vous êtes dans l'opposition, vous pouvez faire bouger les choses de façon positive. Et franchement, je suis vraiment très fier d'être dans un Québec qui va prendre soin de ses femmes comme ça.
Pas toujours obligé de se coltailler sur des matières de société comme ça.
Exactement. Antonine Iacarini, merci beaucoup.
À
t'es
bientôt.
En congé demain?
Ben oui.
Ben oui, donc ça sera Emmanuel Latraverse qui sera là demain.
Bon, vous êtes pas mal pris.
Elle va être là vendredi aussi. Fait qu'il va avoir un caucus jeudi et vendredi avec Emmanuel Latraverse. Puis on te retrouve le... Ben non, lundi c'est congé, on te retrouve mardi.
Mon Dieu, c'est bien long. Je vais m'ennuyer.
Ben moi aussi.
À bientôt.
Tu sais que ce matin, il y en avait par texto qui disait que t'étais une espionne de la souveraineté. T'étais partie 3 semaines.
J'ai entendu ça.
T'étais partie 3 semaines.
Ça serait tellement bon.
Je peux rien infirmer, rien confirmer.
En tout cas, tu nous as dit que c'était une opération, mais... Salut, là.
Bye.
Le midi, on en jase.
Toujours un bonheur de faire ce caucus avec Antonine Iacarini. C'est du lundi au jeudi de midi à 12h30 et ça se retrouve toujours sur le blvd.fm si jamais vous l'avez manqué. Et non, Antonine n'est pas une espionne de la souveraineté.
Parce que là, je le savais comment ça entrait. Ouais, moi, je me pose tout le temps la question à, est-ce que vous avez compris que c'est une farce? Parce qu'il y en a qui prennent ça pour de l'argent.
Oui, on fait du sarcasme des fois à Boulevard 102.1 et dans l'émission On en jase. Je nous trouve privilégiés parce que, Pascal, dans les prochaines minutes, on va avoir la chance de s'entretenir avec Yann Langlais-Plante, directeur relations médias, affaires publiques et relations gouvernementales pour Santé Québec. Je nous trouve privilégiés parce qu'on va justement parler avec quelqu'un qui a les deux mains dans le dossier santé numérique. Ce lancement qui, somme toute, s'est bien déroulé depuis samedi dernier et on l'a au bout du fil. Monsieur Langlais-Plante, merci de prendre le temps pour l'émission d'En jase aujourd'hui. Est-ce que Monsieur Langlais-Plante est là? Oui, bonjour.
Oh, on entend qu'il est là.
Oui, est-ce que vous êtes là, Yann Langlais-Plante? On va regarder... qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ben tiens, check bien ce qu'on va faire, Pascal. On va passer une pause publicitaire, tout simplement.
Puis on va revenir.
On va tenter de rétablir la communication et on va revenir avec Yann Langlais-Plante, un bloc de nouvelles, puis le Canadien de Montréal qui a perdu hier. C'est l'émission On en jase. Ça tue un instant même.
On en jase jusqu'à 14h. Ouais. On en jase. Travel. Gros dossier du jour, ce qui se passe dans notre ville, tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
Oh oui, on jase des sujets qui vous intéressent. Dont la météo, 14 degrés aujourd'hui, 30% de possibilité d'averse. Demain, attendez-vous à de la pluie avec 13 degrés, mais le beau temps nous frappe en ce long week-end. 21 degrés vendredi, 21 degrés samedi, 19 dimanche, 22 lundi. En veux-tu du beau temps? En veux-tu du beau temps pour le week-end de la fête des Patriotes? En v'là. Gracieuseté, boulevard 101. On va prendre le crédit.
C'est peut-être pour ça que PSPP est sorti avec l'espionnage.
Peut-être.
Dans le timing avec la fête des Patriotes.
Ben, exactement.
C'est peut-être quelque chose là.
Ouais, puis en même temps, sur le long week-end, tout le monde va oublier ce que j'ai dit. Pascal, circulation, beaucoup de travaux.
Ouais, oubliez pas ce que je vais dire parce que ça va vous aider de le retenir. Mais il y a des travaux, effectivement. Entre autres, Duplessis Nord, fermeture de l'accès à partir du chemin des Quatre Bourgeois par l'avenue de Bourgogne. C'est difficile. Et il y a un incident signalé, Jeff, aussi sur la route 175 Nord où le pont de Québec, l'accès pour autoroute Henri IV Nord, c'est partiellement entravé. Il y a une panne.
On rejoint à l'instant Yann Langlais-Plante, directeur relations médias, affaires publiques et relations gouvernementales pour Santé Québec. Monsieur Langlais-Plante, comment allez-vous?
Oui, ça va bien, vous?
Ça va super bien. Monsieur Langlais-Plante, lancement de DSN depuis ce samedi. Bon, on a entendu parler de quelques petites problématiques, notamment un arrêt de système lundi matin dans la région de Mauricie. Mais sinon, ça a l'air à bien se passer parce qu'il n'y a pas d'opposition au gouvernement qui est sorti contre le projet. Comment vous avez fait pour réussir?
Ben, comme dirait une quincaillerie populaire dont je tairai le nom, on touche du bois, ça se passe très bien. Ça se passe très bien depuis samedi. Moi, j'ai été avec plusieurs de mes collègues de Santé Québec, puis des établissements sur le terrain dans la nuit de vendredi à samedi, là, parce que le démarrage était à 4h du matin, samedi matin. Puis je vous dirais qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, une certaine fébrilité, mais jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, donc on le prend. Concernant le problème qu'on a vécu lundi matin, en fait, c'est pas une panne, là. C'est que le système EPIC, là, donc le dossier santé numérique était disponible. C'est seulement, c'est un peu comme à la maison, là. Des fois, on a notre réseau Internet connaît une petite baisse, donc il y a de l'instabilité. C'est exactement ce qui s'est passé lundi là, pour une période d'1h30. Mais rapidement, nos équipes sont intervenues, puis ça a permis à tout le monde de reprendre leur session, de se reconnecter sur la plateforme puis de travailler avec le nouvel outil là, pour le reste de la journée. Puis depuis ce temps-là, on n'a pas eu d'autres problèmes à ce niveau-là. Il y a un équipement qui était problématique qui a été remplacé, puis ça va très bien depuis. Là.
On ne cherche pas les poux, on ne cherche pas les problèmes là où il n'y en a pas. On cherche la transparence finalement, mais les problèmes qu'on a vécu au début de la semaine, entre autres à Montréal et tout ça, est-ce que c'était ceux qui étaient sur votre liste de possibilités ou on en apprend un peu à chaque jour puis il faut réagir rapidement?
Ben en fait, il y a plusieurs réponses à votre question dans votre propre question, là, mais c'est vraiment... C'était quelque chose qui était possible parce qu'en fait, il y a 30 000 utilisateurs qui ont un accès à la nouvelle plateforme. Là. Donc, en Mauricie, centre du Québec, puis au nord de l'île de Montréal, on fait des points de presse à tous les matins. Là. Donc, ce matin, il y avait 21 500 utilisateurs qui s'étaient au moins branchés une fois sur le DSN. Donc, lundi matin, là, on le voit, là, on a mis une courbe du branchement là, lundi. C'est certain que beaucoup de gens, durant la fin de semaine, il y a moins d'activité dans les installations, dans les établissements. Mais à partir de lundi matin, là, les gens rentrent à 8 heures. Donc, à partir de 7h30, il y a une recrudescence des connexions. On savait qu'il allait avoir une charge assez importante sur le réseau. Donc, c'est pour ça que ça a amené une certaine lenteur. Donc, rapidement, nos équipes ont mis leur plan à exécution, puis en l'espace de 1h30, ça peut être corrigé. Donc, puis on était toujours transparent là-dessus aussi. Là, puis je pense que j'ai eu l'occasion de le dire à votre micro là, récemment. On n'a jamais dit que ça serait parfait là, dès le démarrage. Il y a toujours certains problèmes qui arrivent dans cette situation-là, mais l'important, c'est d'être prêt pour faire face à toutes les situations. Puis on était capable de se revirer de bord assez rapidement lundi. Là. Puis d'ailleurs, je salue les équipes qui ont été très rapides à intervenir puis à corriger la situation.
Pour terminer avec cette question-là, la bande passante, moi je l'ai dit souvent en onde, que c'est quelque chose qui devait être surveillé parce que bon, on le sait, on a de la misère en général avec ces choses-là. Ça a d'une lourdeur quand même, une implantation de système. On est dans le projet pilote, on l'a instauré à deux endroits en ce moment, dans deux secteurs. Si on déploie le tout au complet, est-ce que ça va être encore un enjeu?
Ben, ça peut être un des enjeux, mais c'est sûr que les équipes, rapidement, comme je vous donne l'exemple, là, déjà dans la journée de dimanche, on avait fait augmenter la bande passante. Là. Puis je suis loin d'être un expert de ces questions-là, mais il y avait eu de la capacité qui avait été gagnée déjà dimanche en prévision de lundi. Donc, malgré ça, il y a eu quelques petits pépins, mais c'est certain, puis on n'est pas encore à l'expansion nationale là, dans l'ensemble des établissements. C'est sûr qu'avec comment ça se passe présentement, il y a plusieurs établissements, plusieurs gens dans plusieurs régions qui disent hey, « quand est-ce que moi, je vais avoir accès au DSN? » Mais comme Mme Biron a eu l'occasion de le dire, notre PDG récemment, là, dans des entrevues lundi, on veut se donner le temps de voir comment ça va fonctionner dans les deux projets vitrines qu'on appelle, donc en Mauricie-Centre-du-Québec puis au nord de l'île de Montréal, prendre le temps de voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, c'est quoi l'effet aussi sur la rapidité, l'efficacité des soins, puis après ça, de faire un plan de match pour la suite des choses. Là.
Pour rappel, on est avec Yann Langlais-Plante, directeur relations médias, affaires publiques et relations gouvernementales pour Santé Québec. Monsieur Langlais-Plante, on en est rendu où justement dans le pourcentage de services offerts dans les deux points de service où le dossier santé numérique a été lancé? Parce qu'on parlait au début qu'on commençait à 25 % de services. On en est où en termes de pourcentage?
Ben, en fait, ça va plus vite là. Puis je touche du bois encore là. Je veux pas, comme on dit, jinxer la patente là. Mais il y a plusieurs plans de mitigation qui avaient été mis en place justement pour ralentir certaines interventions. Qui finalement, la situation a permis, puis la stabilité de l'implantation de la solution a permis qu'on reprenne certaines activités. J'ai pas le détail devant moi là, mais ce que j'entends du terrain, c'est vraiment que les choses se passent bien. Il n'y a pas eu de chirurgie, il n'y a pas eu d'interventions qui ont été retardées par les problèmes, par exemple, qu'on a eu lundi. Toutes les équipes ont été en mesure de faire ce qui était prévu à l'horaire, malgré ces petits pépins-là. Donc, la situation se passe très bien. Puis je le dis, on reste très prudent. On est content de la façon que ça se passe, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, on reste prudent, on reste humble par rapport à ça. Puis on surveille la situation de très près, puis les équipes vont rester mobilisées. Là, toutes les équipes d'accompagnement, tout ça, vont rester mobilisées au moins pour 3 à 4 semaines pour être certain que l'implantation est stable, que les gens sont équipés pour travailler avec la nouvelle plateforme, puis que ça se passe bien. Puis je vous dirais qu'il y a déjà des activités qui ont été faites quand même pas mal, là. Il y a 117 chirurgies dans les deux sites vitrines qui ont été documentées dans le DSN. Il y a eu 32 714 ordonnances qui ont été entrées par des médecins dans la plateforme. Donc ça, c'est des fax de moins, là. On en parlait la dernière fois qu'on s'est parlé, là. Fait que c'est des ordonnances qui sont rentrées dans le système dont le pharmacien peut accéder. Donc on a évité de brûler, si je peux dire, du papier là, dans un fax là, avec ces 32 000 et quelques ordonnances qui ont été envoyées. Donc, c'est des bons résultats. Puis, évidemment, la montée en charge de tout ça, puis les gens vont apprivoiser la plateforme. Puis, on le voit déjà, là, on a quand même pas mal de témoignages de gens sur le terrain qui nous disent déjà, après 24-48 heures, les gens sont plus agiles, sont plus à l'aise avec la plateforme. Puis, ça amène des économies de temps, là, notamment dans certaines interventions, ce qui est voulu, parce qu'en fait, l'outil est là. Il est là pourquoi? Il est là pour gagner du temps, pour faire ce qui est important, ce qui veut dire soigner les gens, soigner les patients.
On se projette dans le futur. À quand un déploiement dans d'autres régions?
Ah, on n'est pas là pour l'instant. Je comprends la population, puis on entend beaucoup de commentaires là-dessus présentement. Mais on veut, comme je disais un petit peu plus tôt, on veut s'assurer que les choses soient bien faites dans les deux projets pilotes qui sont en cours présentement, qu'on fasse des apprentissages là-dedans. On veut pas se garrocher là, ouais. À faire ça rapidement. On va être certain de faire les choses de la bonne façon, mais dans les prochains mois, on sera assurément en mesure de donner plus de clarté là, sur la suite des choses pour un déploiement plus vaste là, du DSN.
Yann Langlais-Plante, félicitations à toute l'équipe pour ce déploiement qui, somme toute, est réussi.
Et puis, merci de le souligner. Il n'y a pas de problème.
C'est ça la radio de boulevard, hein, Pascal. On peut chialer sur bien des affaires, mais on peut reconnaître aussi ce que les gens font de bien. Puis bravo, ça a été bien fait.
Puis on reste aux aguets, mais le fait de pouvoir communiquer avec vous, ça aussi, c'est apprécié, là.
Ben écoutez, ça me fait grand plaisir. Je reviendrai à votre convenance quand vous le souhaitez.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup, M.
Langlais-Plante. Bonne journée. Merci. Au revoir.
Yann Langlais-Plante, qui est directeur aux affaires publiques, médias et également relations gouvernementales pour Santé Québec. On avait énormément de doutes, Pascal, pour le lancement du dossier santé numérique. Mm-hmm. Christine Fréchette a mis son étampe d'approbation, la nouvelle première ministre. Elle a dit « Go, on y va. On va prouver qu'à la CAQ, on est capable de réussir un projet informatique. » Puis bien, faut le dire, même si on avait des doutes, ça se passe bien
pour
à l'heure
l'instant,
actuelle sur le terrain.
C'est ça. Moi, je garde tout le temps cette réserve-là. Tu as dit à l'heure actuelle aussi, donc tu as la même réserve.
Ça,
on salue quand ça fonctionne. La cellule de crise, on l'a apprécié aussi, qu'on ait quelque chose à monter pour réagir rapidement. C'est sûr que là, on est dans l'implantation à deux endroits. Mm-hmm. Bande passante et tout ça, on peut l'augmenter. Moi, je souhaite que ce projet pilote-là, qui s'est très bien fait en passant, là, soit le résultat concret de tout ce qu'on va mettre en place quand ça va être un déploiement à grande échelle.
Exactement. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Oui. Alors, on est très heureux de le constater.
On en jase.
Bon, avant de parler avec Mathias Turcotte, qui est allé rencontrer pas n'importe qui, François-Philippe Champagne, le ministre des Finances au niveau du gouvernement canadien, qui était de passage dans notre belle région de la capitale nationale. Pascal, c'est une belle journée d'actualité.
Oui, c'est une grosse journée d'actualité. Dans tous les pans, c'est très, très fertile.
Oui, donc on va prendre le temps de faire le tour, justement,
merci,
avec toi.
Merci, mon Jeff. Entre autres, du côté de la province de Québec, donc on a déposé officiellement la loi Gabi-Renault pour lutter contre la violence conjugale. Ça s'est fait ce matin et ça a été réclamé depuis le féminicide de Gabi-Renault en septembre dernier. On était préoccupé par le risque que peut représenter un partenaire intime dans la vie de quelqu'un sans avoir assez de renseignements sur cette personne-là. On parle de renseignements confidentiels judiciaires, là, et c'est ça qu'on va mettre maintenant à la portée de ceux qui vont le réclamer. Ça veut dire, dans les grandes lignes, l'ensemble du projet de loi qu'on appelle projet de loi 4, qui a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est pour permettre à une femme d'avoir les antécédents judiciaires de l'homme qu'elle commence à fréquenter. La législation a été déposée, oui, aujourd'hui. C'est dans le but de communication de renseignements aux fins de protection contre la violence d'un partenaire intime par le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière. Et on va aller de l'avant pour le savoir. C'est pas une intrusion dans la vie privée des gens, mais savoir ce que tu devrais savoir en tant que personne et surtout pour protéger ta sécurité.
Ce qui est très bien, honnêtement, c'est une excellente nouvelle pour la société québécoise. Et maintenant, tous les partis politiques doivent travailler ensemble parce qu'il reste seulement 3 autres semaines à siéger à l'Assemblée nationale. Il faut que ça passe.
Pour l'instant, on voit quand même une contribution de tous et chacun là-dedans. C'est sûr que le cas Gabi-Renault est important. C'est une femme qui a été tuée en septembre 2025 par un homme au lourd passé de violence conjugale. Il avait violé 16 fois les conditions imposées par les tribunaux au fil des années. C'est quelque chose qu'elle aurait dû et pu savoir en fait avant de continuer dans la relation. Beaucoup de sondages aujourd'hui qui sont sortis. La course entre le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. C'est très serré encore. La CAQ semble vouloir rebondir. C'est dans un sondage Synopsis pour la presse. Le PQ, PLQ qui obtiennent chacun 30% des intentions de vote à l'échelle de la province. Le parti de Christine Fréchette récolte 18%. Et c'est là qu'on se dit, oh, la CAQ, ça fonctionne avec Mme Fréchette. Du moins, on reprend un peu un air d'aller et on se distance du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime qui est à 13%. Québec solidaire ferme la marche dans tout cela avec 8% des intentions de vote. Alors, on voit là que les gains sont littéralement auprès de la CAQ qui continue de monter pour une petite perte peut-être au libéral, mais toujours une envolée là, pour le Parti québécois.
On l'a surtout vu au vote francophone alors que le PLQ est descendu à 20% et la CAQ est remontée à 23%.
Absolument. Du côté du fédéral, ben, c'est la presse qui présentait un volet fédéral sur un sondage aussi. Cette fois-ci, ben, on n'était pas vraiment surpris. Le premier ministre Mark Carney, qui est très dominant au Québec. Pas moins de 63% des Québécois qui se disent satisfaits du travail du premier ministre en ce moment. On répartit les indécis aussi. Ben, c'est un Québécois sur deux qui voterait Parti libéral du Canada. Le Bloc, on est à 27%. Parti conservateur, c'est difficile, 16%. NPD, 5%. Et si vous vous rappeliez pas du Parti vert, il existe encore.
Oui.
Et on est à 3%.
Ça, c'est grâce au NPD qu'on se rappelle qu'il y a un Parti vert. Ben, ils sont presque à égalité.
On mène du côté des libéraux chez les francophones, les non-francophones, les hommes, les femmes, dans tous les groupes d'âge. Alors, ils sont absolument dominants. Le criminel le plus recherché du Canada, c'est Al Boivin. Vous en entendez parler depuis longtemps. Et même sa tête est mise à prix 100 000 $ jusqu'au 9 juin prochain. Par le programme Bolo, on a sorti cette enveloppe-là pour toute information qui permettrait de le localiser. L'affaire, c'est qu'on l'aurait peut-être localisé du côté du bureau d'enquête du Journal de Québec. Il se trouverait peut-être en Europe. Et on précise qu'il serait notamment caché en Espagne pour un certain temps après avoir quitté le pays il y a plusieurs mois. Alors, un autre qui a réussi à s'évader du Canada, du pays et même de la province. On n'est pas en mesure de confirmer si le Saguenayen est toujours en compagnie de sa conjointe, qui est Yolis Lemieux-Bellavance. Elle aussi, elle est recherchée. On a un informateur qui explique que la cavale est possible parce que Boivin a de l'argent qui paye, fait qu'il réussit à faire ce qu'il doit faire pour lui se sauver. Il dirigerait encore le North Savage Gang, qui est composé d'anciens membres du Blood Family Mafia, qui est à Pictionville, qui lui, on a appris hier, qui restait du côté de l'Italie. Par contre, même si on n'a pas la main dessus, Al Boivin a de nouvelles accusations Et on parle de gangstérisme, de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, en plus d'une série d'introductions par effraction. Elles auraient été commises au printemps 2024 dans plusieurs régions du Québec. On continue à taper sur la tête de Al Boivin pour mettre une certaine pression. Jean-François. Histoire que je dois nommer, je pense, à chacun des bulletins, c'est celle d'un éducateur en service de garde de l'école Anne-Hébert qui fait face à des accusations d'agression sexuelle et de contact sexuel qui impliquent une élève de 11 ans. C'est Radio-Canada qui a rapporté que Kerfala Bagoura, qui a comparu une première fois le 9 avril, avant d'être mis en liberté, en attendant la suite des procédures judiciaires, aurait ses gestes allégués qui seraient survenus le 27 mars dernier. L'accusé doit revenir devant le tribunal le 16 juillet prochain. Le J-Expert, propriétaire de l'immeuble où se trouve la microbrasserie La Barberie, veut aller de l'avant avec la construction d'un immeuble de 15 étages. Donc, on veut revitaliser Saint-Roch avec ça. On a annoncé ce matin que le projet immobilier, selon le promoteur, le Strezlitz, va transformer un îlot stratégique à l'intersection des rues Saint-Dominique, du Roi, de la Reine et Saint-Roch. On en parle plus tard avec Alicia Despins. Il y a 5 artères commerciales qui seront rendues piétonnes cet été. Notez ça dans votre tête, on en reparlera, mais 2 de moins que l'été dernier. Ça veut dire quoi? Les piétons vont pouvoir circuler à pied dans les périodes estivales sur 2 segments de la rue Saint-Jean, la rue du Parvis, la rue Saint-Paul, sur la 3e avenue et sur Grande Allée. Grande Allée, on est au courant là, qu'il y a des fins de semaine, des soirs du fait qu'il sera piéton, mais c'est qu'on ajoute un peu plus que ça. Et la nouvelle qui est sortie dans la dernière heure, Jeff, c'est celle d'un récidiviste de l'alcool au volant. Te rappelles-tu de ce gars-là qui était arrivé dans où il travaille, là, dans un espace d'entreposage de Québec, puis il n'était pas capable d'entrer le code qui permettait d'aller dans le stationnement.
Il avait l'air
intoxiqué, il avait l'air bizarre. On est en avril 2024, il s'appelle Sébastien Proux, puis c'est un employé qui avait fait « Non, moi j'appelle
ça
la police,
pas, là, c'est
ça fonctionne pas ». Et cet homme-là avait causé la mort de sa fiancée quand il était ivre au volant en 2001, puis s'était fait épingler 23 ans plus tard. Mais cette fois-ci, il y avait un enfant à bord du véhicule. Et c'est là où on ramène l'histoire. Alors, il a été condamné à 15 mois et une interdiction de conduire de 5 ans. C'est tombé aujourd'hui pour Sébastien.
Très, très bonne nouvelle. Dans la prochaine heure, à Boulevard 102.1, on va avoir Mathias Turcotte qui va venir nous parler de cette visite de François-Philippe Champagne à Québec, dans notre belle capitale nationale. On va revenir sur l'espionnage, le projet QSL, le prix de l'essence et le financement du tramway. Alex Laramé sera avec nous aussi pour parler de cette défaite du Canadien contre les Sabres 3-2 hier. Soit dit en passant, les Golden Knights de Vegas l'ont emporté 3-2 sur les Ducks d'Anaheim également. Donc, c'est 3-2 dans la série pour les Golden Knights. Craig Berube a été congédié à Toronto. La foire est pognée à Edmonton parce qu'on a approché un entraîneur alors qu'on n'a pas encore congédié notre coach. Bref, on parle de tout ça avec Alex Laramé et on va terminer l'émission avec Alicia Despins pour une chronique politique municipale. On va parler évidemment de ce projet de logis expert dans Saint-Roch et aussi de projet de logement social à Lévis. Restez avec nous, blvd.fm si vous rentrez au bureau ou l'application BLVD 102.1 disponible gratuitement sur App Store ou Google Play Store pour nous écouter. Je vais juste me permettre avant la pause de vous rappeler cette belle météo pour cette fin de semaine. Avez-vous hâte au long week-end, les amis? Ah, que moi j'ai hâte. Dites-nous, 418-971-1021, quel va être votre plan parce que bon, demain, c'est 13 degrés avec de la pluie. Aujourd'hui, c'est 14 degrés. Mais c'est 21 degrés prévu pour vendredi, 21 degrés pour samedi, 19 pour dimanche et 22 pour lundi. Puis ça, là, c'est 100 gouttes de pluie à l'horizon. Donc, on va-tu l'avoir, le beau week-end, Pascal CV?
Hey, j'ai oublié qu'on avait 3 jours, donc je suis vraiment contente. Oh, c'est fun, le soleil, ça fait du bien.
Ah, oh, que ça fait du bien. On revient à l'émission Nageur sur Boulevard 102. 13h07 sur Québec, dans cette journée un petit peu nuageuse, mais faites-vous-en pas, comme je l'ai dit. Vendredi, c'est le soleil qui revient à plein nez. Abonnez-vous à notre page YouTube, BLVD 101. Vous allez avoir beaucoup de contenu, notamment le podcast des grands événements. Les 5 épisodes s'y retrouvent. On a fait le tour d'événements marquants comme le départ des Nordiques. Ah, parlant de ça, Centre Vidéotron, samedi. Pas juste jeudi, samedi, Pascal. 12 piastres. t'assistes au sixième match canadien sable pour trois œuvres de charité.
C'est incroyable. C'est une belle initiative.
Wow.
Demain, je risque d'y être avec des amis.
Ah, faut que tu me racontes
voir...
ça,
oui,
vendredi.
Ça, je vais pouvoir voir un peu l'ambiance.
Ben
puis
oui.
J'ouvre ces dates-là pour samedi, vu que la prolongation de la série là, est un peu confirmée.
Exactement.
C'est extraordinaire.
Donc, c'est confirmé. Vous pouvez procurer vos billets là, directement à la billetterie du Centre Vidéotron sur ticketmaster.com. Allez-en en grand nombre. Pensez jamais dire ça, moi, un ancien fan des Nordiques. Allez remplir le Centre Vidéotron avec vos jets du Canadien. Mais c'est pour des bonnes œuvres. Puis, écoute, c'est tellement cool voir les kids triper comme ça. Quand, à un moment donné, on peut pas aller contre nature quand ton patois, c'est good vibes only. Fait que c'est ça. C'est ça qui est dit.
On peut pas être contre la vertu, Jeff.
Exactement.
Sauf que vous me faites bien rire, les anciens Nordiques qui
ouais.
veulent rien savoir du Canadien, même quand ça va bien et tout le monde est heureux.
Tu changes-tu de bord peu à peu, Jeff?
C'est Mathias Turcotte que vous entendez.
Ouais.
Mathias, bonjour.
J'ai
essayé hier. J'ai essayé fort.
T'as essayé quoi?
Édouard avec son gilet du Canadien à sa côté de moi. J'ai dit, ça y est, pour la première fois de ma vie, j'encourage le Canadien. C'est vraiment... j'ai écrit à Max Larouche après la deuxième période. Je pense que j'ai un problème de santé mentale. Cette haine-là est viscérale. J'ai pensé que c'était un problème dans mon enfance. Ma mère qui m'a transmis cette haine-là. Je suis pas capable. Je suis pas capable de les apprécier comme je voudrais être capable de les apprécier.
Il y a beaucoup de choses.
Pour en parler à nos auditeurs.
C'est sûr, ça fait partie de toi avec la jeunesse.
C'est
conçu là-dessus. Il y a des effets de l'adulation aussi. Il y a clairement une fermeture. Là. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de mauvaise foi.
De l'orgueil.
On va brasser tout ça.
Hey, vous avez pas idée comment, depuis le début des séries, j'essaye fort, là. Mais Caroline, j'ai de la misère. Mais je sens que je fais des pas dans la bonne direction. Okay. Dans le sens que quand il marque maintenant, au lieu de sacrer, je fais « Hey, cool, méchant beau but de Cole
Caulfield. »
Est-ce
que tu as été un peu sur le bout de ton divan à un moment dans un
Ben oui. Ça, c'est clair.
Bon,
c'est clair. Fait que non, je sens que je fais des pas dans la bonne direction, mais juste de dire en ondes que je suis content que le Centre Vidéotron vire au rouge canadien. C'est déjà un très, très, très gros pas en avant. Salut Daniel qui dit « Mon père enregistre les matchs et l'écoute seulement s'il perd. »
Moi, je
te dirais que mon père m'a vraiment pas aidé hier en disant « Le but refusé était bon, pourquoi qu'ils l'ont refusé? » En me textant ça, après ça, en textant « Les joueurs du Canadien font juste plonger. » En m'écrivant des insultes sur à peu près toute l'équipe du Canadien. Il m'a pas aidé à tenter ma thérapie pro-canadien.
Mais voilà, comme ça, tu sais, en ce moment, être content pour les Canadiens, c'est aider les restaurateurs.
Ben, c'est ça, exactement.
C'est aider notre économie.
Oui, puis hier, ça me fait passer une soirée complète avec mon Edou sur le divan, à jaser de hockey, à jaser de sa vie, à jaser de tout et de rien, parce que un ado, s'il demande comment ça va, il répond OK.
Mais là, vous avez des moments.
Puis là, hey, pas, sais-tu quoi, j'ai mal à un genou. Puis là, je joue au foot jeudi. Fait que là, finalement, j'ai pris un rendez-vous chez le physio. Puis là, ben, je vais à 5 heures, je te fais signe que j'ai besoin d'un lift. Puis là, j'ai tout su ça hier en écoutant le hockey. Alors que si j'avais posé la question, ben, ça va ton foot? Ça va.
Correct.
Et ta pratique? Correct. T'as-tu faim?
Ouais.
Qu'on mange.
On mange quoi?
C'est ça. Fait que ça amène ça, le hockey. Fait que c'est pour ça que je veux que le Canadien. Gang. OK, on va en parler avec Alex Laramé dans quelques minutes du Canadien de Montréal. Mais là, grosse visite à Québec. François-Philippe Champagne, le ministre des Finances qui était là. Mathias Turcotte, comme d'habitude, est sur le terrain. Il est allé. Pourquoi François-Philippe Champagne était dans la capitale nationale aujourd'hui, Mathias?
C'était un événement organisé par Québec International, une sorte de discussion avec le ministre Champagne, ministre des Finances, sur la mise à jour économique qu'on a eue il y a de cela quelques semaines.
Peut-être de bonne humeur.
Toujours de bonne humeur. Hein? Comme Jean-François Simard au Québec, ben François-Philippe Champagne est toujours de bonne humeur aussi. Mais ce n'est pas nécessairement la discussion qui a retenu l'attention. Bien sûr, par la suite, on a eu un scrum journalistique. Donc, on a eu la possibilité de lui poser des questions sur les différents sujets. Puis, un sujet qui a fait beaucoup réagir...
Attends. Je le sais, c'est quoi un sujet qui a fait beaucoup réagir, OK? Laisse-moi juste le temps, 2 secondes, de te retrouver ça. Et Seigneur, je suis tout énervé.
T'as une idée déjà, là?
Ça, oui, je suis tout énervé. OK, 1, 2, 3, go! Ah! Est-ce qu'on aurait parlé d'espionnage?
Tu penses, toi?
Est-ce que on aurait dit à François-Philippe Champagne, est-ce qu'on lui aurait posé comme question? Espionnez-vous, PSPP.
La question a été en partie posée là, parce que, pour rappel, pour ceux qui se demandent pourquoi on parle d'espionnage puis qu'il y a la musique de Mission Impossible derrière, c'est que PSPP, hier, a comme sous-entendu, en fait, a dit que lors des rencontres que le Parti québécois a, les téléphones sont placés dans des sacs Faraday qui protègent contre l'espionnage. Qui sont par la suite sortis de la salle où la rencontre a lieu parce qu'ils soupçonnent le fédéral d'espionner leur rencontre. On a vu par le passé le fédéral espionner effectivement certains élus du PQ par le passé.
Mais là, est-ce que c'est vrai?
Ben là, François-Philippe Champagne a été ministre des Finances fédérales, je le rappelle, a été lancé sur le sujet aujourd'hui. Je vous ai fait un petit montage des relances, puis des relances, puis des relances. Il semblait garder la même ligne, je vous laisse entendre.
Alors, on doit se préoccuper.
Bon, peut...
bon, écoutez, c'est... Je peux pas... Vous savez, moi, j'ai des choses sérieuses à faire.
Si vous veniez apprendre que la GRC espionnait le Parti québécois, est-ce que vous leur demanderiez d'arrêter?
Comme je vous dis, moi, je fais des choses sérieuses pour les gens.
Ce qui est pas sérieux, c'est l'indépendance ou le fait d'espionner un parti indépendant?
Non, mais écoutez, des allégations de part et d'autre, moi, comme je vous dis, je me préoccupe, je me focalise sur les choses sérieuses.
C'est quelle bonne question.
Flou.
Ce qui est pas sérieux, c'est-tu
l'espionnage
ou le... Ça, là, félicitations, je sais c'est qui a posé la question. Ouais. Je l'applaudis. C'est la question, puis il a pas répondu.
Non, il a pas répondu.
C'est flou, les choses sérieuses. C'est quoi, les choses sérieuses?
Ça, il a développé. Il est parti dans son blabla politique sur des différents enjeux économiques qu'il
Il a recentré son message.
C'est ça. Il a complètement déplacé la réponse. Parce qu'au début, il a commencé par dire... on est ici pour parler de choses sérieuses, en sous-entendant que ça, c'est pas sérieux. Puis plus que ça avance, plus que tu te rends compte que non seulement... Au début, tu pensais François-Philippe Champagne fait juste un peu ridiculiser PQ en disant que c'est pas sérieux. Mm-hmm. Mais plus ça avance, plus tu te rends compte qu'il veut tout simplement pas répondre à la question non
c'est
plus.
C'est clair. Il y a rien de pas plus sérieux que... C'est sérieux, mais c'est impossible. Il t'envoie un message.
Mais clairement, ils se sont fait passer une ligne de communication.
Ça va se détruire, ben oui.
Puis tout le monde doit la suivre.
Exactement. Ils t'envoient un message qui va s'autodétruire. T'as une mission à faire.
Donc,
c'est sérieux?
Ben oui, ben... Selon François-Philippe Champagne, c'est pas assez sérieux pour répondre aux questions, du moins.
Déçu. Mais c'est pas grave. Hey, des sujets vraiment sérieux pour la capitale nationale. Projet QSL, ça dit quoi? Parce que là, cette semaine, on apprenait qu'il va y avoir une étude environnementale qui va être faite par les instances fédérales. Puis là, moi, quand j'entends tout ça, je fais « Oh my God! » Délai. C'est ce qui frappe dans ma tête. J'ai-tu raison de m'inquiéter?
C'est pas nécessairement des études environnementales qui vont être effectuées. Puis ça, c'est intéressant parce que pour l'instant, en gros, le projet QSL de port à container à Québec qui a été annoncé il y a de cela quelques semaines, c'est le port qui s'occupe de faire l'étude environnementale tout d'abord et par la suite donner son go au projet ou pas. Mais là, il y a beaucoup de groupes qui se sont levés en disant « Ouais, c'est parce que le port, il veut le projet. » Fait que même si les études environnementales sont pas nécessairement favorables, il va donner son go au projet quand même. Donc, une demande a été faite à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada de faire un processus d'évaluation également. Donc, ce qu'on fait présentement du côté de l'Agence d'évaluation du Canada, c'est d'évaluer si de faire une évaluation ou non est nécessaire. En gros, pour résumer, Joël Lightband, ministre de l'efficacité gouvernementale, a été questionné sur le sujet aujourd'hui, à savoir justement, est-ce que ça va retarder le processus? Je vous laisse entendre.
Bien, l'agence va d'abord déterminer si elle se saisit ou non de l'analyse du projet. C'est vrai que ça va se faire dans les jours à venir. J'entends que ça se fera assez rapidement. Et maintenant, que ce soit l'agence ou que ce soit le port, pour nous, ce qui est important et ce dont on va s'assurer, c'est que le processus soit rigoureux, qu'il soit transparent, qu'il soit ouvert sur la communauté. Puis, par rapport à votre question sur les délais, non, j'anticipe pas de délai, quelle que soit la décision.
Parfait, parce que ça le prend, ce projet-là, surtout avec l'incertitude économique à l'heure actuelle, les tarifs qui sont là, on le sait, il y a plusieurs entreprises qui ont des difficultés, donc il faut justement faire en sorte de diversifier notre économie, puis ça, c'est un projet qui rentre parfaitement là-dedans.
Puis pour les délais, le port devait faire une évaluation d'environ un an de toute façon, donc si... Du côté de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, on décide de faire une évaluation aussi, puis que ça dure un an également, Ça va prendre le même temps des deux côtés, de toute façon.
Donc, très bonne nouvelle. Prix de l'essence. Oui. Bon, le gouvernement canadien a enlevé 10 sous sur la taxe d'assises. Ça avait pour but de diminuer le coût de l'essence. Ça fonctionne pas parce que Donald Trump aime mieux jouer à Battleship sur Truth Social que régler le conflit avec l'Iran. Y a-t-il d'autres mesures qui s'en viennent?
Oui, bien, le ministre Champagne a été questionné sur le sujet parce que le prix à la pompe continue d'augmenter. Est-ce qu'on peut être sûr que le 10 cents qu'on a retiré revient vraiment dans les poches des Canadiens? Je vous laisse entendre.
Mais vous êtes quand même conscient que la situation géopolitique au Moyen-Orient bouge beaucoup. Tu sais, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une volatilité et une complexité sans précédent. Nous, on fait notre part, parce qu'il faut savoir que la suspension de la taxe, fédérale ou de la taxe d'assises fédérale sur les carburants, c'était notre façon de dire aux gens, on vous a entendu.
Oui, il a clairement raison, tu sais, là-dessus, là, je veux pas juste... Ben oui, je vais mettre le blâme sur un homme sur la planète, qui est Donald Trump, qui est si fou des finances des Américains. Qu'est-ce que tu penses des finances des Canadiens? C'est la même affaire.
Puis du côté du ministre Champagne, puis on l'a répété, on a fait notre part, puis je l'ai relancé à savoir si on avait quelque chose d'autre dans les cartons pour aider. On semblait pas avoir grand-chose. Donc je pense que on va pas voir ce dossier-là avancer du côté du fédéral. Déjà qu'on a retiré une taxe qui rapportait beaucoup d'argent au gouvernement.
C'est particulier parce que si on avait une personne à choisir au fédéral, mis à part Mark Carney, pour nous parler de ce genre de choses-là, c'est vraiment M. François-Philippe Champagne. Puis là, on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on ressent un manque de transparence? On ressent un manque de travail sur le dossier?
Oh non, c'est juste qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ne peuvent pas vraiment
Ils sont rendus
plus
dans l'attente. La balle est dans le camp.
Exactement. Ils ne peuvent pas vraiment faire plus que ce qu'ils ont fait là à l'heure actuelle. Hey, financement du tramway, dis-moi donc. Parce que quand le fédéral est là, on en parle tout le temps. Puis là, Joël Lightbound nous avait dit... on refait le On le refait petit, justement exactement le calendrier, le scénario. Oui. Jonathan Julien, lorsqu'il était ministre des Transports, nous a dit « D'ici à Saint-Jean-Baptiste, c'est réglé. » Joël Lightbound, quand il est venu ici en studio, a dit « La prochaine fois que vous m'invitez, ça va être parce qu'on va ficeler le financement du tramway. » Et Christine Fréchette, avec son nouveau ministre des Transports, Benoît Charrette, avait laissé présager une possible entente dans deux semaines, que ça donne à être cette semaine. On a-tu annoncé ça?
Malheureusement, non. Ah! Je vais casser ta bulle directement. Là, on a répété la même ligne qu'on répète depuis le début, que le fédéral est là depuis le début. On dit on est là à 1,44 milliards. On est proche d'une entente. Si le gouvernement du Québec en veut plus, on en a plus pour eux autres. Mais ça va passer dans l'enveloppe sur le transport en commun. Tellement, on nous a tellement répété que le fédéral était là depuis le début. On a peut-être eu un morceau, puis là je dis ça avec une pincée du mot, là, on a peut-être eu un morceau de réponse sur pourquoi c'est le bordel, ce financement-là. François-Philippe Champagne nous a ramené au début du projet avec Régis Labombe, puis comment ce financement-là s'est fait, je vous laisse entendre.
Non, non, mais on était là depuis le début. Hey, moi, je me rappelle avec le maire Labombe, on avait fait ça sur une napkin. Hein? Vous demanderez, là. On a... Non, non, mais c'est un des premiers projets qu'on avait fait, Joël.
Le projet de tramway sur une napkin ou le financement?
Ben, on avait... Ouais, le financement où on était...
Hey, ça a été appelé le projet de napkin.
Ben
là,
oui!
Des années de temps. Puis là, ma mémoire est confuse à me dire, on avait-tu l'information que c'était réel ou on en avait fait une image au niveau, mettons, des médias, parce que c'était un peu cabochon, c'était tout croche. On avait ri d'Anne en campagne électorale, puis on revenait avec ça, on se dit, voyons, on a-tu dessiné ça sur une napkin?
Un coup que Régis Labombe a décidé de se lancer dans le tramway, c'était pas dessiné sur une napkin, parce que moi, au RTC, j'avais à le présenter au chauffeur d'autobus, puis c'était vraiment une présentation, tu voyais la ville se construire autour du tramway, tu voyais vraiment le trajet, qu'est-ce qu'elle allait être exproprié, par exemple, le Pizza Salvatore sur la première avenue.
Tu le voyais déjà.
Donc, tu le voyais déjà, alors c'était pas un projet napkin.
Mais c'est capoté qu'il rapporte le terme. Au moment où ça passe pas vraiment.
Exactement.
Là, il n'y a clairement pas une ligne de communication qui a été écrite en relation avec le fait de l'accessibilité, l'acceptabilité sociale.
On a tellement parlé du projet de tramway comme étant sur une napkin parce qu'il y a eu plein de soubresauts. T'sais. Le projet Anne Guérette, après ça, le projet Régis Labombe, après ça, le projet de la CAQ qui l'avait changé. Pour revenir au projet de CDPQ Infra, on est parti à 3,3 milliards, on est rendu à 7,6.
Les circuits.
Exactement. Donc, c'est clair que ça faisait
c'est
très
pas sa meilleure.
Bien, projet napkin, c'est parce que c'est projet improvisé, puis c'est clair, ça fait improviser de la façon qu'il l'a fait.
Ça avait été notamment utilisé par Jean-François Gosselin lors de la campagne municipale. Beaucoup, là, que c'était dessiné sur une napkin, ce projet-là. Puis, selon moi, honnêtement, puis c'est comme repris par la suite en disant, moi puis Régis sur une feuille. Là, un peu plus tard, j'ai pas sorti la clé. Là,
il a changé son terme.
Ouais, c'est ça, il a changé son terme. Je sais pas à quel point
c'est une feuille, on a dit 3,3 milliards. Moins fédéral, moins municipal, moins provincial. On y arrive, mais ouais.
Mais de dire qu'on a réglé ça sur une napkin, c'est sûr, ça sonne drôle dans maudit.
Vous êtes déçu ou heureux de cette défaite du Canadien hier 3-2 contre les Sabres de Buffalo? On en parle dans quelques instants avec notre chroniqueur sportif Alex Laramé. Mathias, tu restes avec nous?
Yes, sir.
Excellent.
Juste oui. David Bowie par My Chemical Romance. Le grand classique de Queen par Panic at the Disco. Sans compter les covers de Bob Dylan, CCR, Elton John, Genesis, tout ça repris avec l'ADN Boulevard. Ça s'enligne pour être un gros week-end de fun, de bonnes anecdotes, puis surtout de grosses tounes. Le spécial cover toute la fin de semaine à Boulevard 102.1.
Présenté par Climatisation Paquette. En mai, profitez de 200 $ de rabais sur les thermopompes Mover. Pour le meilleur service en 24 heures, c'est Climatisation Paquette.
Profitez de jusqu'à 50 % de rabais sur une sélection de vêtements, chaussures et équipements. Juste à temps pour le long week-end. Détail en magasin, Sport Expert d'ici.
Avec le prix de l'essence qui augmente, c'est le temps de passer à l'électrique avec Kia Lévis. Il n'y a jamais eu un meilleur moment pour se procurer le Kia Niro EV Wind. En incluant le rabais Fidélité, la remise gouvernementale et le rabais Kia jusqu'à 5000 $, la Niro EV vous est offerte en location pour 60 mois à partir de seulement 95 $ par semaine. Et il n'y a aucun acompte à verser. Passez vite chez Kia Lévis pour en faire l'essai. Kia Lévis. Sur approbation du crédit, 16 000 km par année.
Du 13 au 25 mai, épargnez 20 % sur les peintures et teintures d'extérieur Benjamin Moore de qualité supérieure et célébrez la vie en plein air. Venez nous voir chez Junot et Frères à Québec sur Pierre-Bertrand et à Lévis sur Guillaume Couture. Des conditions s'appliquent. Du 26 mai au 13 juin, le Festival Carrefour sort dehors. Au domaine Méseret, on raconte des histoires de peur autour du feu. Près du fleuve, on écoute le récit des saumons de la rivière Métis. Autour de la colline parlementaire, un convoi de camions téléguidés explore le concept de liberté. Et dans Saint-Sauveur, découvrez le grand spectacle déambulatoire où tu vas quand tu dors en marchant. Et en plus, vous choisissez le prix de vos billets. Billets au carrefourtheatre.qc.ca.
La saison du homard est de retour chez IGA. Jusqu'au 13 mai, le homard frais, cuit ou vivant de 1 livre à 1 livre et quart est au prix membre de 8,77 $ la livre ou 19,33 $ le kilo avec la carte Saint-Plus. IGA, vive la bouffe! Dans les magasins participants, détail à IGA.ca.
Pièces d'auto économique, c'est 8 magasins et ce, partout au Québec. C'est des grandes marques et des prix compétitifs. Promotion en cours sur les freins Brake Max et Bosch et plus encore. En grande nouveauté, notre magasin sur Charest vous accueille aussi le samedi de 8h à midi. Pièceséconomique.com.
Pierre, tant qu'à rénover, on met-tu des thermostats intelligents?
Ben non, notre budget est trop serré.
Mais ils sont 0 $ puis l'installation est gratuite.
Ah ben oui, on fait ça.
En ce moment, Hydro-Québec offre les thermostats intelligents à 0 $ et l'installation gratuite. Achat en ligne, détail à hydroquebec.com.
Déjà au volant d'une Volkswagen? C'est le moment d'en profiter. Obtenez 1 % de rabais sur votre prochaine location chez Volkswagen Saint-Nicolas. Nouveau modèle, nouvelle techno, même confiance à meilleur prix. Passez nous voir dès aujourd'hui chez Volkswagen Saint-Nicolas.
Pour un animal heureux, actif et en santé, passez chez Dino. Jusqu'au 14 mai, profitez de 7 à 9 $ de rabais à l'achat de nourriture formule Nutrition Santé pour chiens de race et chiots royal canin. Rendez-vous en succursale ou sur dino.ca.
Cet article est-il toujours disponible? J'ai répondu oui, 53 fois.
L'acheteuse a scratché ma télé en la mettant dans son char. Elle m'a demandé un rabais.
En venant essayer ma paire de jeans, la fille m'a raconté sa colonoscopie. Les jeans lui faisaient pas.
La fille qui voulait mon lave-vaisselle a fini par se pointer. En Bixi.
C'est pas toujours facile de vendre, mais avec 70 points de collecte partout au Québec, c'est toujours facile de donner à Renaissance.
Du 21 au 23 août, c'est le Raid Bras du Nord Promutuel Assurance, le plus gros rassemblement de vélos de montagne au Canada. Viens t'amuser avec tes collègues lors de notre défi corporatif ou participe à l'une de nos 5 courses en levante. Inscris-toi au raidbrasdunord.com.
Vivace ou annuel, telle est la question. Fanny de ne pas être bien conseillée? Pour un bouquet de choix, une Floralie de couleur. Faites-vous une fleur et passez chez Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. à Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Toyota, c'est plus de 25 ans d'expertise en véhicules électrifiés. Profitez-en avec la Prius hybride branchable, une autonomie électrique améliorée de 50 % et jusqu'à 962 km d'autonomie combinée avec une charge complète et un plein d'essence. En plus, vous profitez d'une conduite dynamique propulsée par 220 chevaux. Les clients de Mi-Cible peuvent recevoir jusqu'à 8000 $ de rabais gouvernementaux et incitatifs clients pendant la vente étiquette rouge. Mais faites vite, la vente se termine bientôt. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Mois de mai.
102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV.
On en jase. C'est le titre de l'émission. C'est de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est votre émission d'actualité. On fait de l'actualité, surtout locale, dans le caucus avec Antonine Iacarini. On se permet d'analyser la politique provinciale, la politique fédérale. On fait du sport aussi. Puis, on a un journaliste sur le terrain, Mathias Turcotte, des fois Pascal CV, qui nous amène des petits bijoux comme le financement du tramway a été fait sur une napkin.
Ouais, déclaration de François-Philippe Champagne qu'on a, on a dit, oh, grâce à Mathias qui était au point de presse.
Mais là, ça fait, ça commence pas mal à percoler dans les médias, je pense.
Ben, hein? C'est sûr que, écoute, moi, aussitôt que je l'ai entendu dans un clip à Mathias, j'ai dit, hop, là, on a notre ligne de titre et
ben
tout ça.
Oui, hein?
C'est ça qui commence à sortir parce qu'il était en point de presse et on a parlé du financement fédéral pour le tramway. Puis François-Philippe Champagne, aux finances du côté du fédéral, a dit, c'est un projet qui a été fait dans le temps sur une napkin avec ouais. Régis Labombe.
Tu permets qu'on l'écoute?
Oui.
On l'écoute.
Non, non, mais on était là depuis le début. Hey, moi, je me rappelle avec le maire Labombe, on avait fait ça sur une napkin. Vous demanderez, là. On a... Non, non, mais c'est un des premiers projets qu'on avait fait, Joël.
Le projet de tramway sur une napkin ou le financement?
Ben, non, mais ben, on avait ouais, le financement où on était...
Hey, ça, c'est-tu assez maladroit? Si je pouvais me faire une image, là, ce serait moi qui me tape le front avec l'intérieur de ma main, mais assez fort pour être un peu sonné, parce que je me suis dit, Colin, qu'il n'y a pas de ligne de com qui a été établie dans cette communication-là. Ça fait des années qu'on essaie de parler du projet de tramway, mais dans l'acceptabilité sociale, ça passe pas, parce que non. Tout le monde y va avec cette image-là du projet fait sur une napkin. C'est pas la meilleure du ministre libéral fédéral des finances, qui a fait cet aveu-là. C'est un point de presse qui est organisé à Québec. On vient d'en parler avec Mathias. Ça va être disponible sur le site de blvd.fm. Mais c'est sûr que là, tout est par rapport à cette phrase, cette image péjorative en ce moment dans les médias. Il y a le troisième lien à l'Est qui a fait jaser parce que Jean-François Simard, ministre responsable de la Capitale-Nationale, est allé dire que c'était le plus grand chantier de la prochaine décennie à Québec. On s'affronte un peu là, en ce moment entre les deux nouvelles. Et Jean-François Simard était là parce qu'on prévenait que le pont de Québec devrait être remplacé tôt ou tard. Il a été questionné par le député Étienne Grandmont. Le ministre Simard a souligné qu'il y a l'étude des crédits budgétaires qui était une divergence idéologique fondamentale qui séparait la CAQ de Québec solidaire à ce sujet-là. Écoute, on est dans des grandes envolées lyriques au niveau des transports aujourd'hui. Il a continué en disant « Je sais qu'ils sont contre le troisième lien. Peu importe ce qu'on va dire, ils seront contre le troisième lien. » Et c'était lors de la période des questions et on a un peu piqué la pertinence d'investir plus de 10 milliards de dollars dans ce projet-là. Pour le député Kakis de Montmorency, on dit dans le Journal de Québec que ce sont des milliards qui seront versés en salaire aussi aux travailleurs qui vont construire le nouveau lien interrive. Donc, on est dans cet éternel débat et sujet qui est le transport ici, la fluidité à Québec. Il y a un récidiviste de l'alcool au volant qui a été jugé aujourd'hui. Qui, je vous rappelle, c'est l'homme qui a causé la mort de sa fiancée en 2001 et qui n'avait pas appris de sa leçon, il faut croire, parce que je vous ramène à cette histoire-là. On est en 2024. Sébastien Proulx arrive en milieu de journée dans une entreprise d'espace d'entreposage de Québec. Il essaie de faire le code qui ouvre l'accès au stationnement. Il n'est pas capable. Puis là, il y a un employé de l'endroit qui le voit, puis qui remarque des symptômes d'intoxication, puis qu'il y a un enfant à bord du véhicule. Fait que lui, pas une ni deux, il appelle les autorités. Il est allé au poste. C'est un délinquant qui avait soufflé deux fois la limite permise de l'alcool. Mais on a regardé aussi son pédigree, puis on s'est rappelé que sur sa fiche, ben Proulx avait embouti l'arrière d'un camion-citerne qui était à l'époque sur le boulevard Henri IV et sa fiancée, Julie Woods, avait eu aucune chance. Elle était décédée. Aucune trace de freinage qui avait été observée sur la chaussée. Donc, c'est encore un homme qui se retrouve devant les tribunaux pour des raisons de facultés affaiblies. C'était 25 ans après avoir tué sa compagne. Et là, il écope de 15 mois de prison pour avoir conduit sous avec un enfant à bord. Aïe, c'est-tu aïe. Assez? 88-971-1021. Je vais terminer avec la nouvelle de la journée, je dirais, là, ouais, pour tout le Canada. C'est Al Boivin qui fait encore la manchette parce que là, bon, il y a de nouvelles accusations sur sa tête. C'est pas parce qu'on n'a pas la main dessus que ça nous empêche d'en déposer. Mais il serait recherché en Europe cette fois-ci. C'est le bureau d'enquête du Journal de Québec qui a précisé qu'il serait caché en Espagne pour un temps... depuis qu'il a quitté le pays, depuis au moins plusieurs mois. On n'est pas en mesure de confirmer si sa conjointe est avec lui. Yolis Lemieux-Bellavance, elle est aussi recherchée. Je vous rappelle que sa tête est mise à prix. C'est 100 000 $ jusqu'au 9 juin prochain pour toute information qui permettrait de le localiser. Et il dirigerait toujours le North Savage Gang, qui est composé, entre autres, d'anciens membres de la Blood Family Mafia, qui était sous joug de Pic Turmel. Toute une épopée dans le crime organisé, encore une fois, aujourd'hui.
Thompson, dégagement. Ben, un bon capricieux qui bat Dobesch. Il n'y avait rien à faire.
Ben oui, Alex Laramé, c'est possible. Une rondelle qui frappe la baie vitrée à la hauteur de la sortie de la fameuse Zamboni qui vient frapper Jacob Dobesch qui entre dans le filet. Ça crée l'égalité 2-2 à ce moment-là. Zach Benson en rajoutant un avantage numérique en troisième période et les Sabres de Buffalo qui créent l'égalité 2-2 dans la série.
Ben ouais, tu sais... C'est sûr que ce but-là a fait mal aux Canadiens, là, mais au final, c'est un match qui s'est décidé, ces unités spéciales. Oui, le Canadien a marqué un but grâce à Cole Caulfield sur le power play, mais ça reste qu'on est 1-7, je veux dire, en série, ça pardonne pas. Puis le but gagnant, tu le dis, Zach Benson en avantage numérique. Donc oui, on peut pointer du doigt ce but-là chanceux, mais on va se rappeler que match numéro 7, le but Newhook, il y avait un peu de chance aussi là-dedans. Là. Oui,
en
ça
effet.
A pas dévié sur une pièce d'équipement, là, mais je veux dire, il l'a batté au vol puis ça a rentré dans un trou, petit comme un trou de souris. Là, je veux dire, à un moment donné, des bons, il va en avoir pour le Canadien contre. Pour moi, c'est vraiment plus les unités spéciales là, qui expliquent la défaite du Canadien.
En effet, et Alex Lindyruff qui a eu la main heureuse avec Ukko Pekka Luukkonen, parce qu'on oublie peut-être, mais moi, j'ai pas oublié ces deux arrêts sur des tirs sur réception de Cole Caulfield au début de la deuxième période. Si le Canadien prend devant 3-1 à ce moment-là, je pense qu'on parle d'un autre match.
Ben oui, totalement. Il a permis de garder son club dans le match. Puis c'est souvent ça en série. Hein. Tu veux tout simplement pas faire d'erreur majeure, donner le mauvais but au mauvais moment. Il n'a pas été nécessairement parfait, mais ça a quand même été une amélioration par rapport à Alex Lyon. Puis aucun doute que c'est lui qu'on va voir probablement pour le reste de la série.
Mathias, je regarde le temps de jeu des joueurs, puis je me dis que Martin Saint-Louis est sûrement sorti de sa stratégie depuis le début des séries, où justement on avait vu dans la série contre Tampa Bay un Josh Anderson jouer plus régulièrement que des fois un Cole Caulfield. Mais là, hier, avec tous les avantages numériques, ça donne un 23 minutes 10 de temps de jeu à Juraj Slafkovský. Mais pendant ce temps-là, Kirby Dach, qui est un joueur très hot, a joué seulement 8 minutes 51 et Zachary Bolduc, 9 minutes 39. Il y a une répartition qui est à revoir là, du côté de Martin Saint-Louis.
Puis ça, c'est depuis début des séries pour moi. Tu regardes tous les matchs, puis Caulfield, quand il jouait du hockey très difficile, jouait 19 minutes environ par game quand même. Slafkovský, depuis le début des séries, joue du 19-20 minutes. Là, hier, 23 minutes, malgré le fait que c'était très difficile. Puis pendant ce temps-là, Zachary Bolduc, ça arrive régulièrement, malgré le fait qu'il joue du gros hockey, qui dépasse les 10 minutes par partie. Je comprends qu'on a des avantages numériques, mais à un moment donné aussi, il faut faire jouer tes joueurs qui le méritent, puis il faut faire jouer tes joueurs qui t'en donnent. Je comprends le principe de tes gros canons, puis que si t'es fait pas jouer, ils vont pas rebondir. Mais on peut pas dire que Slafkovský joue du gros hockey depuis le début des séries. Mais dans ce temps-là, c'est plate, mais ce joueur-là, dans une game normale, il faut qu'il joue moins que le joueur qui t'en donne plus. Puis là, présentement, c'est des gars comme Zachary Bolduc qu'on fait pas jouer, malgré le fait qu'ils ont des grosses séries, là.
Alex, es-tu d'accord avec ça?
Ben, moi aussi, là, je trouve que l'utilisation des joueurs en ce moment, c'est peut-être pas optimal. En même temps, il faut faire confiance à Martin Saint-Louis qui a plus le pouls de son équipe là, derrière le banc. Mais moi aussi, je suis d'accord que Zachary Bolduc, c'est souvent lui qui écope et on n'a pas l'impression que c'est lui qui mériterait là, de moins jouer. Mais je trouve ça intéressant qu'on a amené le point de Josh Anderson parce qu'on l'a beaucoup vanté dans la série contre le Lightning de Tampa Bay, mais soyons honnêtes, dans la série contre les Sabres, on ne le voit pas du tout. C'est même des mises en échec percutantes. On n'a pas l'impression qu'on a vu tant que ça. Ça pourrait être un joueur là, qui devra en donner plus pour mériter son temps de jeu. Mais du côté de Bolduc, je suis d'accord. D'après moi, il mérite de jouer plus là, avec Kirby Dach.
On aura la chance demain de parler justement du sixième match de la série entre le Canadien et les Sabres. Sixième match de la série également qui aura entre les Golden Knights et les Ducks demain soir. Les Knights qui l'ont emporté 3-2 en prolongation hier. Et on fera l'analyse du cinquième match de la série entre l'Avalanche et le Wild qui se déroule ce soir. Mais avant de te laisser partir, Alex, je veux te parler de deux choses. Premièrement, Craig Berube congédié par les Maple Leafs de Toronto. Ça sent-tu Patrick Roy?
Ben, c'est un peu ça que sur toutes les lèvres, hein, est-ce que Patrick Roy accepterait d'aller à Toronto dans la situation qu'ils sont? En tout cas, moi, je pense que le congédiement de Craig Berube, là, c'était un peu écrit sur les murs, là, je veux dire, ouais. On s'en doutait. Puis la prochaine embauche, ça va vraiment être déterminant, puis ça va nous donner une meilleure idée là, de où est-ce qu'on s'en va du côté des Maple Leafs. Là, on est allé chercher Chaika, ça sort complètement du champ gauche comme directeur général. Si on va chercher plus un Bruce Cassidy là, ou un Peter Laviolette, là, je voyais l'article de RDS là-dessus, selon moi, ça indique que les Leafs s'en vont vraiment, et on veut faire les séries l'année prochaine, même un Patrick Roy, mais si on y va peut-être avec un choix un peu à la Martin Saint-Louis, quelqu'un de plus jeune, ben là, peut-être ça indique qu'on est prêt peut-être à faire un reset puis aller plus vers le long terme. Donc, est-ce que Patrick Roy serait bon là-bas? Moi, si j'étais les Maple Leafs, c'est sûr que je l'appelle, puis s'il veut, moi, je le prends. Ouais. Parce que je pense qu'on a besoin de leadership là, dans ce club-là, puis Patrick derrière le banc, il replacerait les Austin Matthews puis les Lander à leur place.
Imagine la rivalité canadien-toronto avec Patrick Roy derrière le banc des Leafs. Je veux ça! Je vais devenir un livre. Non, OK, c'est beau. J'essaie de devenir
c'est
un Canadien.
Jeff, là, c'est assez, Jeff.
Passe ton métro sur tes épaules. Ouais, c'est ça.
Alex Laramie, on s'en parle demain.
Yes, à demain.
Salut, à demain. Alex Laramie, chroniqueur sportif à l'émission On en jase également. Journaliste au 99.5 Montréal. Courte pause et on finit l'émission chronique municipale avec l'excellente Alicia Despins.
Jusqu'à 4.
Chien qui passe, il passe pour un cycliste. Là, arrêtez de chasser les chiens, ces pistes cyclables, là, puis faites votre job.
Je te rappelle que t'as déjà mis un cadenas là, au collier de ton bouvier bernois. Tu pensais que c'était ton vitesse.
Ben oui, pauvre bouvier sur le rack à bessic, toi, entre deux BMX. Moi, j'ai vu mon gars partir hier à cheval sur un gros chien. Il était sûr qu'il avait pris son bessic. Des choses qui arrivent dans le monde merveilleux de respect citoyen.
Who let the dogs out?
Who?
C'est vrai que ça se ressemble.
Gravel donne retour tous les jours en semaine, 14h.
C'est la grande vente d'ouverture du 11 au 24 mai chez Automobile en direct à Sainte-Foy. Des rabais instantanés jusqu'à 1 000 $, des baisses de prix sur plus de 400 véhicules, plus de 700 véhicules à moins de 20 000 $. Détails en succursale chez Automobile en direct. Ton auto, on l'a direct.
Connaissez-vous le marché Terre et Mer d'alimentation première à Sainte-Foy? Découvrez-y plus de 260 protéines locales de qualité supérieure. Viande et poissons sous vide et surgelés, nos experts vous attendent sur place pour vous conseiller. Rendez-vous au 2828 chemin des Quatre Bourgeois.
Préautorisation, renouvellement ou refinancement hypothécaire? Dans le marché actuel, un bon choix, ça se prépare. Avec Axia, on évalue vos options pour que vous avanciez avec confiance. Avant de signer, visitez axiahypothèque.ca. Axia, la valeur d'un bon choix.
Chez Subway, on te laisse choisir ton niveau de piquant. Fait que manger épicé, c'est pas dangereux.
Cool, parce que moi, on m'a toujours dit attention le feu, c'est chaud, c'est...
délicieux! Oh, le nouveau menu chaud comme tu veux de Subway, c'est 3 sandwichs. Poulet ranch ou piri-piri relevé. Poulet au miel épicé corsé ou délit façon Nashville endiablé. Fraîchement préparé dans notre nouveau pain au piment Ghost. C'est relevé, corsé, endiablé.
Etc.
Plus de remise en question, tu peux suivre les indications. Subway, mange frais, sens-toi bien. Fraîchement préparé pour un temps limité dans les restaurants participants.
Saviez-vous qu'un nombre record de clients de Laurier Mazda changent fois après fois pour le même modèle? C'est même avec tristesse qu'ils viennent porter leur véhicule à la fin de la location. De la même façon qu'un grand classique nous tire les larmes, Laurier Mazda est LE classique de l'automobile. Ce mois-ci, vivez une vive émotion en mettant la main sur une Mazda CX-5 GX 2026, location 48 mois, 119 $ par semaine avant taxe et zéro comptant. Laurier Mazda, le classique de l'automobile.
Ça cartonne!
Soyez prêts pour un été inoubliable chez Sail. Économisez jusqu'à 25 % sur l'équipement de camping et de plein air, ainsi que sur les vêtements, les chaussures et bien plus encore. Sail, votre destination plein air 100 % québécoise.
pour beau, pour que ce soit beau.
Chez Gérard Bourbeau et fils, le savoir-faire et les conseils avisés, ça se cultive avec le temps. Et chez nous, la passion pousse depuis 88 ans. Votre centre jardin Gérard Bourbeau et fils, c'est le plus grand choix de végétaux à Québec. Que vous soyez jardinier amateur ou producteur, vous trouverez tout pour réussir vos projets. Une pépinière bien garnie avec rosiers, plantes grimpantes, arbres fruitiers et plus de 1000 variétés de vivaces. Sur la première avenue à Charlebourg, gérardbourbeau.com.
Pour que ce soit beau.
Du 14 au 18 mai, vivez la méga porte ouverte chez Escale VR Beaumont. 5 jours pour profiter de rabais allant jusqu'à 20 000 sur une grande sélection de VR neufs et usagés. Roulottes, tentes roulottes, fifth wheel, boîtes campeurs et motorisés. Il y en a pour tous les styles et tous les budgets. Financement disponible à partir de 5,99% ou aucun paiement avant septembre 2026. Sur place, jeux gonflables, tirage d'un scooter électrique de 1 500 $ et food truck mellows le samedi. Escale VR Beaumont, 12 rue de la Chute à Beaumont.
Bon, je vais y aller directement au but, là. Je voulais qu'on se rencontre parce que, ben, j'ai vu ton historique Internet.
OK.
T'es accro?
Ben, c'est-à-dire que c'est quand même...
Fais-toi-en pas, là. Moi aussi, j'y vais plusieurs fois par jour.
C'est un petit peu trop d'informations pour moi, ça, patron.
Ben voyons, sois pas mal à l'aise. À ce qui paraît, tout le monde du bureau va sur Mercado.
Oh, OK. Tu parles de Mercado?
Ben oui. Tu pensais que je parlais de quoi?
Mercado.fm. Vos économies commencent ici.
Patio ou piscine en vue? Décorampe, spécialiste en garde-corps vert et aluminium, vous offre rapidement une fabrication québécoise sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15 %. Rendez-vous sur déco-rampe.com ou visitez-nous à Québec, Lévis ou Saint-Apollinaire.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Évalue ta comme neuve au comme-neuve.com.
Ce segment d'émission présenté par Nordique.
Vos freins ont besoin d'amour? Venez rencontrer nos conseillers d'expérience. Nordique, Première Avenue et Henri Bourassa. Nordique.com.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase. À Boulevard 102.
Et comme à l'habitude, à 14h, ce sera le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey. Et ne manquez pas Marceau Soir à 18h et Entretien d'une heure avec Luc La Liberté. Ça, là, c'est mes Marceau Soir préférés. Luc La Liberté, ouais. Quelle bible de politique américaine.
Puis c'est quelqu'un avec qui on aime prendre le temps. Parce que c'est un enseignant, tu sais. Puis nous, on l'a souvent chronique ici le midi, puis c'est toujours bien intéressant. J'ai travaillé, tu le sais, sur la préparation du Marceau Soir. Je sais un peu où est-ce qu'on s'en va. On s'en va autant à l'international qu'avec les États-Unis, au Canada, en économie, en social. Mm-hmm. Let's go ce soir, 18h.
Ça va être très intéressant. On s'en va rejoindre à l'instant même pour notre chronique politique municipale, Alicia Despins. Et si on pense que Antonine Iaccarini est une espionne au sein du mouvement souverainiste, non, mesdames et messieurs, même si elle habite maintenant à Val-d'Or, elle n'est pas celle qui a égorgé le castor cette semaine en plein centre-ville, car elle est à Trois-Rivières. Alicia Despins, comment vas-tu?
C'est pas moi, j'ai un alibi.
T'as un alibi, c'est beau. Les policiers t'ont appelé, tout est beau, tout est correct.
Ah, et on espère que c'est pas quelqu'un que tu connais aussi. Quelle histoire.
Non, j'espère que non. Mais non, mais ça va super bien. J'étais à Trois-Rivières, j'étais à l'ACFAS. Je sais pas si ça dit quelque chose.
Hey, non,
là,
vas-y,
congrès sur la recherche francophone. C'est vraiment un très, très gros congrès, 93e édition. Puis aujourd'hui, il y a un colloque justement sur les transformations dans le milieu municipal là, qui est organisé par des professeurs de l'ENAP et l'Université de Sherbrooke. Fait que moi, j'ai une journée de rêve. Là. Je trippe aujourd'hui.
Ah, excellent. Hey, parlant de transformation, Alicia, ce matin, on apprenait dans le journal Le Soleil que le groupe de Logis Experts qui a acheté le bâtiment qui abrite présentement la Barberie, là, un vieux bâtiment bâti dans les années 1800, va en faire un projet de 15 étages avec du logement. Et là, du logement abordable, parce que Logis Experts, c'est ça. C'est du logement abordable. Et là, je me suis mis à rêver à notre Saint-Roch en 2035, puis je me suis dit, OK, Hello Dorchester, projet 401, l'ancien immeuble de l'Aube-Rivière. Ce projet-là de Logis Experts, le tramway, coudonc, on l'a, notre revitalisation.
Ça aurait quasiment pu commencer avec l'édifice Fresque, là, qui pourrait
c'est
être un
vrai?
Peu le symbole, tu sais, de cette revitalisation-là. Le premier, c'est combien? C'est 20 ans, quand même,
oui.
L'édifice Fresque. C'est un beau, mettons qu'on voulait mettre une date, là. Moi, je
mettrais
la date à
Donc, dans le fond, là, dans Saint-Roch, à l'heure actuelle, même si on trouve que c'est long, puis personnellement, je trouve que c'est long parce que je suis allé dans des commerces de Saint-Roch la semaine passée deux fois, puis on la voit, la misère, on la sent, la misère. Mais il y a vraiment un plan continu, là, puis c'est sans parler des parcs que l'administration Marchand veut justement revitaliser et rénover. Donc, il y a des raisons d'être positif pour le centre-ville de Québec à l'heure actuelle.
Bien, c'est clair. Puis, tu sais, c'est un projet d'envergure. Là. On parle quand même, commerce de proximité, 360 mm-hmm. logements, des bureaux, etc. C'est un vrai gros projet d'envergure. Moi, je trouve ça rassurant sur l'attractivité, finalement, de la ville de Québec, puis aussi la capacité des constructeurs ici là, à venir livrer des projets de cette ampleur-là, l'intérêt aussi de Saint-Roch. Tu sais, pendant un bout, là, tu t'en souviens, on avait l'impression que tout ce qui se construisait, c'était tout le temps le Bourgneuf. À un moment donné, notre centre, il faut qu'il continue de vivre, puis il faut qu'il continue de croire, puis de rester dynamique.
Ce qu'on aimait particulièrement aussi, c'est qu'on allait consulter les citoyens pour le dit projet. Fait qu'on fait ça aussi en phase avec ceux qui y sont et selon ce qu'ils ont besoin. T'sais, on parlait des à-vélos dans le cours, on parlait d'une couple de patentes comme ça. Est-ce que vraiment ça peut revitaliser Saint-Roch, un projet immobilier comme celui dont on parle, où c'est un coup d'épée, pas nécessairement dans l'eau, mais il va en falloir beaucoup?
Bien, il va en falloir beaucoup, ça, c'est certain. Ça ne peut pas se faire juste avec un projet ou avec deux, trois projets.
Il faut t'attirer le monde là, de diverses catégories.
Oui, c'est ça. Puis, il faut un peu de tout. Il faut que ce soit bien réfléchi. Je parlais de l'édifice Fraisse, mais dans le fond, pour montrer que tout ça, ça se fait sur une longue période de temps. Fait que là, nous autres, on est ici, on est au mois de mai 2026, mais il a fallu qu'il y ait des gens avant qui pensent à ça, puis il va falloir qu'il y ait des gens après qui pensent à ça, puis continue de voir grand pour Saint-Roch. Mais tu sais, Pascal, tu le mentionnes, puis je pense que c'est important, on le voit qu'il y a, contrairement aux années précédentes, aux décennies précédentes, il y a davantage une sensibilité à venir prendre le pouls des citoyens, s'assurer que ça répond à des besoins, de ne pas répéter les erreurs du passé, notamment sur la question de l'acceptabilité sociale. Tu sais, le J-Expert vient vraiment adopter une stratégie en amont d'anticiper les enjeux plutôt que de les minimiser. Ils vont vraiment les nommer, ils proposent des actions, que ce soit le lancement du site web là, pour avoir une consultation publique, le caractère patrimonial du bâtiment en disant là, reconstruire la façade à l'identique, les arbres, même la présence de la barberie là, qui est quand mm-hmm. même une institution. Donc, de dire, regardez, ça ne fermera même pas pendant les rénovations, pendant en fait la construction. Puis, fait que c'est quand même intéressant là, ce changement de paradigme-là de la part d'un constructeur, là, de dire on le sait qu'il va y avoir des enjeux, on y a déjà pensé, voici nos solutions.
On traverse de l'autre côté de la rive et autre changement important à Lévis, celle du logement social. Hier, Stephen Blainey a dit « Vote libre au conseil municipal. Moi, je donne un congé de taxes de 20 ans pour 3 projets de logements sociaux. Ça va être plus de 300 logements sociaux. C'est un investissement total de la ville de 15,8 millions de dollars si on compte le congé de taxes pendant 20 ans. Ça a été accepté en majorité. » Je te dirais que je pensais pas que Lévis était rendu là au niveau social. Je suis vraiment impressionné et je suis très content de le voir.
Oui, c'est ça. On dirait qu'on ne s'attendait pas de ça de la part de Lévis en général. On ne s'attendait pas de ça de la part de Stephen Blainey. Ce n'est pas ce qu'il annonçait finalement là, comme couleur à la mairie de Lévis. Je l'ai dit, et je pense la semaine dernière, mais je le répète, je pense qu'on est devant un maire très pragmatique. Mm-hmm. Je ne pense pas que Stephen Blainey a un agenda politique à la mairie de la ville de Lévis. Je pense qu'il est présenté devant des enjeux, on y présente des solutions, il fait l'arbitrage autour de ça, puis il choisit de manière très pragmatique, là, parce que il faut loger les gens à Lévis, puis il faut notamment qu'il y ait une offre abordable. Là. Donc, c'est surprenant, mais c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir la suite, là, comment ça peut se traduire après ça, là, ces décisions pragmatiques-là.
Ça peut être super intéressant de travailler sur le fond, hein, on en parle. Jeff le dit tout le temps, on revient aux égouts, on revient assis à ça. C'est ça dont les gens ont besoin au municipal. Par contre, le manque de vision sur le long terme, ça peut-tu nuire, ça, pour Lévis?
Ben oui, puis je pense que si on a des problèmes aujourd'hui à Lévis, c'est notamment parce qu'il y a des gens qui ne s'en sont pas occupés par le passé, qui n'avaient pas cette vision d'avenir-là, de dire on va prévoir, on va planifier. M. Blainey dit on n'a même pas de politique de logement social à la ville de Lévis. C'est une grosse ville, là, Lévis. Là. C'est pas,
ben, c'est rendu la 10e à l'échelle du Québec. Donc, normalement, tu devrais avoir une politique pour le logement social, avoir une politique pour l'itinérance aussi, ce qu'on n'a pas du tout. Là.
Exact. Puis, c'est pas des enjeux qui sont propres à la ville de Québec. Au contraire, c'est un gros pôle, Lévis. Donc,
il y a beaucoup de gens de Québec qui traversent. Là, je ne vais pas te couper, mais il y a aussi beaucoup de gens de Québec qui traversent parce qu'ils voient le trafic et tout ça qui sera amplifié pour le tramway dans les prochaines années.
Oui, puis il reste qu'il y a encore des pôles d'emploi importants à Lévis, notamment le pôle des Jardins. Il y a encore beaucoup de gens qui partent de Québec pour aller travailler à Lévis. Fait que il y a des familles, des gens qui vont s'établir là parce que ça reste attractif. Ça reste que c'est une ville qui est attractive de ce point de vue-là. Donc, il faut penser à l'avenir. Puis, on a un maire qui ouvre la porte finalement à ça et qui l'encourage. Moi, il y a le contexte politique aussi après ça là, à prendre en considération. Puis je vais reprendre les mots de Blainé ici qui dit « On a une démocratie qui se déroule en direct là, parce qu'il y a des élus de son parti qui ont voté contre ». Ça aussi, je trouve ça super intéressant. Ça va un peu à contresens de ce qu'on a vu dans la plus grande portion là, des villes au Québec avec des partis politiques. Donc, les maires tiennent leur ligne de parti, c'est très droit. On dirait qu'on ne se donne pas cette opportunité-là, finalement, de venir briser la ligne de parti, de venir avoir des positions qui sont dissidentes. Carney, de plus en plus, hein, montre qu'il y a peut-être une culture qui se rapproche de ça aussi. Là. Donc, ouais. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Ceci dit, je ne sais pas à quel point là, Blainé avait vraiment le choix de dire là, qu'il ouvrait le vote de manière libre, là, du moment qu'il y a des gens dans son parti qui disaient qu'ils allaient voter contre. Mais ceci dit, c'est sûr que ça enlève aussi au poids politique global de Blainé. Donc, ça va être à surveiller de voir si c'est pas un piège là, dans lequel il est tombé, peut-être. Là.
En effet, c'est une très, très belle observation. Alicia Despins, on te laisse repartir à ton congrès, puis on se parle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut, bonne semaine. Alicia Despins, chroniqueuse en politique municipale pour nous à Boulevard 102.1. Vous rappelez que le Canadien est en congé ce soir. La série se poursuit demain contre les Sabres. Des billets qui sont toujours en vente au coût de 12 $ pour le Centre Vidéotron. Même principe pour le match de samedi, 6e de la série. Ce soir, 20h, c'est l'Avalanche du Colorado qui va tenter d'éliminer le Wild du Minnesota. C'est 3-1 Avalanche dans la série. Pascal, on se parle demain?
Sans faute.
Good! Le retour de Gravel, tu es à l'instant même. Bye bye, guys.
Bye.